Bonjour à tous, bienvenue en conversation avec JCK, c'est Jean-Charles Curdali. Et dans ce 12e épisode, je suis avec Ty Chris. Je pense que la plupart d'entre vous, en tout cas le grand public, connaît Ty Chris via ses sauts incroyables qui avaient été diffusés à la télévision, des événements magnifiques. Le saut de la Tour Eiffel en 2010 et un saut en longueur au Sacré-Cœur. Ty Chris, c'est aussi le plus grand gagnant tout simplement de l'histoire du sport extrême. Il a dominé sa discipline, le roller, à la fin des années 90 et début des années 2000. Notamment en 2001, où il a gagné toutes les compétitions, les plus grandes compétitions qui existent dans le sport extrême, les X Games, les Gravity Games, les championnats du monde. Et Ty Chris, c'est un entrepreneur dans l'âme, c'est quelqu'un qui aime créer des projets, créer des événements et des business depuis toujours. Et depuis qu'il a pris sa retraite professionnelle, il a lancé divers projets. Et celui qui prend tout son temps depuis 2014, c'est l'entreprise UnOff, qui est un business de Clone Number, qui a annoncé notamment une levée de fonds de 10 millions en 2018. Et Ty va nous expliquer notamment dans cet épisode l'histoire de cette entreprise et les difficultés qu'il a pu traverser aussi bien par rapport à sa casquette, en tout cas de l'étiquette qu'il peut avoir pour certaines personnes de sportifs de haut niveau et les difficultés inhérentes à ce business. L'épisode est très complet, très inspirant. Ty Chris est vraiment incroyable et en tant qu'ancien skater quand j'étais ado, c'était super cool de l'avoir dans le podcast et j'espère que ça vous plaira autant que moi, donc je vous dis à tout de suite avec Ty Chris. Je record.
Et ça record. Au moins, voilà, tu es sûr, t'as pas de courrier, il y a le bouton rouge.
C'est ça. Allez, bonjour Taïg.
Bonjour.
Comment tu vas?
Écoute, super, super. Et toi, ça va?
Bah, ça va. Je suis content de t'avoir, comme je te disais. Moi,
également.
Je te connais depuis. Alors, ça date depuis 2001 ou 2002.
Ok.
Dans les années roller.
Les années roller. Moi, tu ridais toi-même?
Moi, c'était plus le skate, ça.
Le skate, ok.
Mais je regardais déjà à l'époque les X Games, c'était pas simple, comme je te disais, c'était pas simple encore à trouver, c'est pas la même époque quoi. Maintenant on a deux clics, enfin un clic de trouver les vidéos sur YouTube. À l'époque il fallait attendre la nuit ou les rediffs sur Eurosport ou sur Extreme Sport Channel, enfin ce genre de chaîne.
C'est vrai.
Et du coup ça fait hyper plaisir de t'avoir. L'idée c'est qu'on revoit un peu tout ce que t'as fait, pas mal de thèmes à voir avec toi. Et pour commencer je voulais parler de ton enfance, déjà okay. Savoir d'où tu viens.
Bah écoute,
par la base.
C'est simple, ma mère est grecque, mon père est algérien. Moi je suis né en Algérie, je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans. Mes parents à la base sont artistes parce que ma mère est sculpteur et mon père était à la base acteur et metteur en scène de théâtre en Algérie. Et après en arrivant en France, mon père s'est mis en tant qu'éducateur de prévention, c'est-à-dire qu'il aidait les jeunes délinquants dans les cités difficiles. Et donc après voilà, on est arrivé à Paris et depuis l'âge de 5 ans j'ai grandi à Paris, mais mes parents ont eu une idée folle en fait de ne jamais me scolariser. J'ai jamais été à l'école, même pas une journée dans ma vie. Donc j'ai eu une vie très très inhabituelle par rapport aux autres jeunes puisque voilà, j'allais pas à l'école.
Il y avait une raison particulière, ils t'ont expliqué après pourquoi.
La raison, oui, alors ils m'ont évidemment posé la question si j'avais envie d'y aller. Moi je leur ai dit que j'avais pas envie.
Donc les petits, je pense qu'on dit souvent non.
On dit souvent non. Et leur raison, c'est qu'ils avaient l'impression que l'école allait me brider et aller finalement casser cette candeur et cette façon de voir la vie différemment, justement sans barrière, etc. Et ils se disaient que le plus important est avant tout de faire les choses avec passion. Et ils n'avaient pas le même stress que d'autres personnes peuvent avoir sur le futur, malgré qu'on n'avait pas d'argent. Ou en tout cas, on n'était pas à la rue, mais on n'était vraiment pas du tout aisés. Mes parents, ils partaient du principe que ce qui est important, c'est pas spécialement d'avoir une belle voiture, une belle maison. Ce qui est important, c'est surtout de faire ce qu'on aime. Et quel que soit le métier qu'on choisit, si c'est le métier qu'on aime, c'est ça qui compte. Et donc, ils se sont dit, c'est plus important qu'il ait l'école de la vie, à voyager, à tester des trucs, à faire vraiment ce qu'il aime. Et s'il fait ce qu'il aime, il trouvera sa voie. Ils avaient une sorte de confiance éternelle sur la vie. Et donc voilà, donc j'ai touché à tout, j'ai fait de la magie, j'étais professionnel de magie en étant gamin, j'ai fait du tennis, j'ai fait du piano, j'ai fait du dessin, etc.
Ah ouais, on va y revenir, justement, dans la magie, quand tu dis professionnel, c'est-à-dire t'as découvert comment la magie.
Alors j'ai découvert à peu près 17 ans, un truc comme ça, je me suis entraîné à peu près 5 heures par jour jusqu'à 20 ans.
Okay. Et la passion encore,
c'était ouais. Voilà une des passions. Et du coup évidemment quand on fait 5 heures d'entraînement par jour, et ben on devient un expert de magie. Et donc je faisais des spectacles et je donnais des cours même, etc. Ça commençait à être au début un peu mon métier, c'est-à-dire que je gagnais de l'argent en faisant des spectacles de magie, mais j'avais toujours à côté la passion du roller puisque je faisais en parallèle de ça du roller. Donc c'était même, je faisais même les deux à la fois, j'étais en roller avec mon paquet de cartes dans la main. Et voilà, j'ai commencé le roller à l'âge de 5 ans au Trocadéro. C'était beaucoup plus une façon...
C'était le roller ou c'était le...
Le patin à roulettes.
Parce que ça n'existait pas le roller à l'époque.
Voilà, le roller en ligne n'existait pas.
Le roller en ligne, okay.
Voilà, mais moi, c'était du patin à roulettes, comme ils appellent en gros les 4 roues, le quad. Et j'ai commencé parce que finalement... Aujourd'hui, on a Internet, on a des jeux vidéo, on a les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus facile d'avoir un groupe de potes et tout. Vu que moi, j'allais pas à l'école, le seul moyen pour justement avoir un groupe de potes, c'était au Trocadéro où t'as tous les jeunes qui sortaient de l'école qui se retrouvaient là. Et donc, on se retrouvait à faire du roller ensemble et faire des jeux, des ce qu'on appelle des éperviers, des chasses à l'homme, etc. Et donc, le roller à la base était beaucoup plus un jeu pour moi que de la compétition ou des figures. Et on faisait au début des sauts de marche où on faisait la quête avec les copains pour aller s'acheter des baquets de gâteaux. Et petit à petit, en grandissant, c'est là où j'ai commencé à vouloir faire des compétitions. Et j'ai découvert ça sur des vidéos américaines où il y avait des grands champions, d'abord en skate, puisqu'il n'y avait, rien en roller, comme Tony Hawk qui faisait des shows, etc. Et donc, j'ai commencé à regarder les vidéos de skate et à me dire, il faut que je fasse la même chose en roller. Et donc, j'ai été sur une rampe à Maison Alfort et j'ai commencé à m'entraîner pendant des années et des années.
Et Tony Hawk, là, c'est dans les quelles années quand tu le découvres? Alors, c'est au début de sa carrière?
J'ai découvert la rampe en 90. Oui, en 90, c'est ça. Donc,
la rampe, si tu peux expliquer.
La rampe, donc, c'est le grand U en bois ou en ce qu'on appelle le half pipe. C'est donc la discipline, on va dire, maître de tout ce qui est skateboard, des rollers, compétition, etc. Et il y a une rampe qui s'était ouverte comme ça à Maison Alfort sous un autoroute. Donc j'ai été avec des potes un jour juste pour m'amuser, découvrir la rampe. Et quand j'ai vu ce truc-là et que j'ai essayé, j'étais vraiment pris de passion pour ce sport et j'ai commencé à y retourner tous les jours.
Et pourquoi la rampe par rapport au street, enfin au parc, ce genre de choses quand tu vas dans les skateparks par exemple?
Déjà à l'époque, il n'y avait pas vraiment de skatepark, de street, etc. On faisait quelques sauts de marche et on avait fabriqué des tremplins avec des copains au Trocadéro, mais
il n'y avait pas
de skatepark. Il y avait vraiment cette rampe qui s'était ouverte à Maison Alfort, qui était une très belle rampe. Et je sais pas, la sensation, la discipline elle-même, c'était vraiment ce qui me plaisait le plus. En fait, moi, je crois que ce qui me plaisait, c'était de faire des grosses acrobaties et de faire vraiment des sauts dans les airs, presque de la voltige en roller et des sauts périlleux dans tous les sens. Et c'est quelque chose que je pouvais retrouver beaucoup plus facilement sur une rampe que en street.
Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais on est quoi, 7-8 mètres en hauteur quand on est en...
Alors, peut-être pas autant, parce que la rampe fait 4 mètres, et on est à 2 mètres, 3 mètres au-dessus au maximum.
Mètres, ouais. C'est assez haut, donc ça doit faire des bonnes sensations.
Ah, c'est des super sensations.
Et tu disais juste, parce que dans ton enfance, alors avant de partir sur ta carrière professionnelle, tu disais aussi que tu joues au tennis. Bon, ça me parle, parce que moi, j'ai beaucoup joué au tennis aussi.
C'est
vrai. Mais tu l'as pris de manière assez extrême aussi, j'imagine.
Extrême aussi, c'est-à-dire que toujours par rapport à cette philosophie que mes parents m'ont donnée, ils me laissaient faire mes propres choix, mais je pouvais les faire à fond. Donc, je me suis mis au tennis comme un fou.
Ça, c'était vers quel âge?
J'ai commencé à 12 ans.
Ok.
Et je faisais ça toute la journée, je faisais 6 heures par jour de tennis, je voulais devenir champion de tennis. C'était fou. Et ce qui était bien, c'est que le tennis est très formateur mentalement parce que c'est un sport extrêmement mental. Donc ça m'a appris à vraiment gérer la pression, etc. Et en parallèle du tennis, c'est là où j'ai découvert la rampe. En fait, je faisais toujours du roller parce que c'était le jeu avec les copains.
Ça, c'était depuis que t'es tout petit, c'est
incroyable. Voilà. En fait, quand les copains étaient à l'école, moi je faisais mon tennis. Et quand eux sortaient de l'école, moi j'arrêtais le tennis et on se retrouvait tous pour faire du roller au Trocadéro. Et donc en parallèle de tout ça, j'ai découvert vers 15 ans la rampe. Et là je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Mais je faisais mes entraînements de tennis quand même en parallèle. Au bout d'une semaine, je me suis cassé le pouce. Donc c'était plus dur de continuer le tennis. Mais avec le plâtre, je pouvais toujours continuer le roller. Et là après, voilà, j'ai continué, j'ai arrêté le tennis.
Donc qu'est-ce que tu retiens justement de cette éducation où justement t'es pas allé à l'école, c'est quelque chose que tu conseilles aux gens?
Alors, conseiller de pas aller à l'école, non, parce que pas aller à l'école, c'est une responsabilité énorme. Et si la famille à la maison n'a pas suffisamment de stabilité et de compréhension sur l'éducation, etc., le gamin, ça risque de faire un contre-coup, et le gamin risque de se retrouver perdu et vraiment en situation difficile, etc.
Il faut un cadre spécial autour.
En fait, il faut surtout... Mais ce cadre est aussi important quand quelqu'un va à l'école ou quand quelqu'un ne va pas à l'école. C'est-à-dire que si à la maison, les parents sont complètement barrés ou ils n'ont aucune compréhension comment une éducation doit se construire, etc., évidemment, le gamin, même à l'école, il sera perdu. Donc voilà, je pense que tout part à la base des parents, mais c'est vrai que les parents sont souvent débordés avec le boulot, etc. Et donc, quand le gamin est à l'école, c'est une sorte de liberté un petit peu pour eux parce que bah, ils ont le gouvernement qui s'occupe de leur enfant 5 heures, 6 heures, 7 heures par jour, etc. Quand le gamin n'est pas à l'école, bah là, les parents doivent assurer.
Il faut s'en occuper.
Il faut s'en occuper. Donc là, c'est une grosse responsabilité. Il faut qu'ils aient le temps, il faut qu'ils aient l'envie, il faut qu'ils aient la compréhension, etc. Donc, mais par contre, un truc qui est certain, c'est que l'école d'aujourd'hui, Et il y a des défauts sur cette école. Alors, même si c'est plus dur pour moi de juger parce que j'ai jamais été à l'école, mais je vois un peu de l'extérieur qu'il y a évidemment beaucoup trop d'élèves pour le nombre de profs. Les élèves sont beaucoup plus dans une situation passive à attendre l'information et à apprendre du par cœur. Donc, s'ils apprennent du par cœur, ils ont des bons résultats. Sauf que dans la vie active, c'est pas le par cœur, c'est ce que j'appelle le débrouillardisme qui fera la différence. Et donc, si demain je crée une école, ce que je ferai sûrement un jour, je mettrai des enfants dans une situation où c'est eux qui sont que dans le faire. C'est-à-dire que c'est eux qui devront à chaque fois trouver leur propre solution, mettre évidemment beaucoup moins d'élèves par rapport au nombre de profs. Et quand vraiment le gamin bloque et là, il n'a pas trouvé par lui-même la solution, là, le prof lui donne un petit indice pour trouver. Mais il faut toujours que ça vienne de l'élève, parce que dans la vie, c'est ça. Quand on crée quoi que ce soit, il n'y a pas un prof qui nous dit « c'est quoi tout de suite la solution ? C'est à nous de nous débrouiller ».
Il faudra qu'on discute, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi, créer une école, et ça fait partie des projets également.
Ça fait partie de mes projets à 100%.
Mais donc du coup, je comprends ce que tu veux dire, donc à l'école, les règles du jeu ne sont pas forcément celles qui... Pour devenir bon à l'école, ce n'est pas les mêmes règles que pour devenir bon dans la vie après.
Non.
Et toi, du coup, tu représentes, alors on va faire ton parcours après, mais cette capacité à apprendre en faisant justement.
Exactement. Vu que j'avais rien appris à la base, j'ai dû développer à chaque fois mes propres techniques pour apprendre. Quand il a fallu que j'apprenne l'anglais, j'ai pris un dictionnaire, j'ai écrit 1500 mots sur un dossier Excel, j'ai imprimé ça et j'ai appris par cœur ces 1500 mots. Et à partir de là, quelques verbes, etc. Et quand j'arrivais dans le pays, j'arrivais à communiquer parce que quand tu maîtrises 1500 mots, tu as toujours le jour, les gens manient en général 1500 mots. C'est rare qu'on manie beaucoup plus que ça. Et donc, voilà, c'est des techniques, mais comme ça, à chaque fois, je trouvais mes propres techniques, ce qui m'a aidé dans le monde de l'entreprise, parce qu'il fallait à chaque fois trouver mes propres techniques, soit pour lever des fonds, soit pour trouver des trucs, même pour inventer des brevets, quoi.
Bien sûr. Et tu retiens quoi de ta période avant les compétitions dans le roller ? Cette période où tu jouais avec tes potes encore
C'était une période d'innocence et d'enthousiasme, et une période extraordinaire, parce que c'était une période... Ou avec tous les copains, c'était une sorte de récré exceptionnel. En fait, il n'y a rien de mieux de s'amuser avec des potes autour d'une passion commune qui donne en plus une sensation de vitesse et de liberté incroyable. C'est-à-dire qu'on faisait ce qu'on appelait des randonnées, des rando-catch. Alors ça, c'était pas très bien, mais bon, on s'accrochait derrière les voitures, on partait à fond. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Donc on voyait comme ça 50 gamins qui partaient comme des fous entre les voitures, qui s'accrochaient derrière les voitures, ou qui faisaient simplement au Trocadéro des jeux ou des éperviers, des chasses à l'homme, où on était les champions de l'esquive, où on mettait des barrières avec des bouts de bois, où on faisait des sauts par-dessus les marches et on faisait la quête pour récolter un peu d'argent pour s'acheter des gâteaux, etc. Donc c'était une ambiance géniale. En plus, il y avait évidemment quelques filles qui étaient là. Donc c'était une sorte de récré. Et en plus,
c'est un mode de vie au final. Ça va plus loin que juste faire du roller ou faire du skate quand on est dans ces milieux.
Alors moi, j'ai pas fait du roller pour le mode de vie des sports extrêmes comme beaucoup en font. Moi, c'était vraiment pour soit pour la passion du roller même, soit pour cette liberté avec les potes. Quand j'étais gamin, il y avait même pas le mode de vie skater, oui. Le mode de vie roller, il y avait pas ça.
C'était d'après, mais le côté, en tout cas, on se fait une bande de potes et puis autour d'une passion. Mais au final, peut être dans un autre sport, ça aurait été peut-être la même chose, tu me diras. Dans
exactement. En plus, un point qui était hyper important au Trocadéro, c'est que c'était des jeunes de tout milieu et il y avait alors à part ceux qui arrivaient avec une veste ou un blouson qui était un peu plus cher que les autres, mais globalement on était tous égaux en termes de rang social là-bas.
On se juge pas.
Voilà, on se jugeait pas. Donc ça, c'était hyper, hyper agréable parce que on se retrouvait tous là et voilà, et on était une sorte de grande famille, quoi.
Et après, du coup, donc, tu disais la rampe, le début de l'entraînement pour la compétition.
Voilà, donc la rampe à 15 ans. J'ai fait ça comme un fou, non-stop, non-stop. J'ai énormément progressé. Le seul problème, c'est que je n'arrivais pas à... Il y avait, la mode du roller en ligne n'avait pas explosé en Europe, donc je ne pouvais pas vivre de ma passion à ce moment-là. Et donc, mes parents avaient un petit restaurant après, et moi, j'étais crépier, je m'occupais du restaurant le midi. Et donc, je me suis retrouvé à peu près de 18 à 20 ans, où j'ai été obligé d'arrêter ma passion de roller. Alors, j'en faisais toujours pour. J'étais toujours sur mes rollers. Je vivais sur mes rollers. Même au restaurant, je servais en roller. Je faisais mes crêpes. Il y a des journées, je me rappelle quand j'étais gamin, il y a eu une période de 6 mois où j'ai pas mis une seule fois une paire de chaussures. Donc, je vivais sur les rollers. Par contre, de 18 à 20 ans, j'ai abandonné le rêve de devenir champion de roller. Parce que je voyais que c'était pas possible. Il n'y avait pas de sport de compétition, etc. Et donc, j'avais cette frustration parce que j'avais le niveau, j'avais ce rêve et le marché n'était pas là.
Là, tu l'as un peu perdu aussi. Enfin, tu dis, voilà, j'aide mes parents dans le resto. Mais tu sais,
voilà, c'est-à-dire que j'étais face à la réalité. Il fallait que j'aide mes parents dans le restaurant. Le roller ne me permettait pas d'en vivre. Et donc, j'étais face à la réalité. J'étais obligé d'abandonner un petit peu ce rêve de devenir champion. Et c'est à ce moment-là où je faisais de la magie. Je commençais à faire des spectacles. Et vers 20 ans, la mode du roller en ligne, du rollerblade en quelque sorte, explose partout dans le monde. Et là, je vois qu'il y a des compétitions qui s'organisent un peu partout. Et je vois que pas mal de potes qui, eux, étaient en quad, donc en roller traditionnel à l'époque, sur la rampe aussi, ont commencé à se faire sponsoriser par des marques de roller en ligne et qui ont commencé à avoir un salaire et à en vivre. Et donc là, j'ai dit à mes parents, mais c'est incroyable, on peut faire en vivre en faisant du roller. Eux, ils étaient sceptiques, évidemment. Et donc, il y a une compétition qui s'est organisée à Bercy. J'ai appris cette compétition 2 mois avant.
Compétition professionnelle, du coup.
Professionnelle, ou autour du rollerblade, en tout cas du roller en ligne. J'ai appris que pour y participer, il fallait obligatoirement que je sois en roller en ligne. Et donc, j'ai chaussé des rollers en ligne. Je me suis entraîné 2 mois. J'ai fait cette compétition. J'ai fini 5e. Mais les gens ont vu que j'avais un énorme potentiel. Et le soir après la finale, je me suis retrouvé avec un contrat avec Rollerblade. Et c'était le dimanche soir. Et le lundi matin, je partais en tournée partout dans le monde.
Donc c'était le déclic du coup, qui a lancé ta carrière. Et juste pour comprendre, entre le roller quad, comme tu dis, et le roller en ligne, qu'est-ce qui change fondamentalement
Alors, sur la rampe, il y avait ce qu'on appelait tout ce qui était grind, c'était toutes les glissades où on glissait sur la barre de fer qui est le coping, qui est le rebord, en tout cas en haut de la rampe. Et tous ces systèmes de grind étaient très différents en roller en ligne par rapport en roller traditionnel. Donc c'était un nouvel apprentissage pour moi, c'est pour ça que je m'étais classé que 5e à cette première compétition, c'est-à-dire que j'étais fort dans les airs pour tout ce qui était rotation, parce que ça ressemblait à ce que je faisais en roller traditionnel. Par contre, de glisser sur toute la barre de fer, tous ces grinds, tous ces types de grinds, là j'étais vraiment mauvais. Il m'a fallu à peu près quelques mois, l'équilibre était différent, à m'habituer à ces rollers en ligne. Voilà.
Et tu te souviens justement ton état d'esprit pour les runs, du coup, enfin les runs, je sais pas comment expliquer.
Ouais, on dit comme ça.
C'est les moments où vous passez, enfin je sais pas comment expliquer autrement.
C'est un enchaînement en fait, c'est un peu comme au patinage artistique, c'est un enchaînement de 50 secondes qui correspond à peu près à une vingtaine de figures et c'est un mélange de difficultés, d'artistique, d'amplitude, etc.
Du coup, c'est ta première fois que tu avais à gérer sur ta première compète.
Alors non, parce que j'en avais fait déjà en roller traditionnel, en ce que j'appelle en quad, mais c'était des compétitions extrêmement amateurs où il n'y avait pas de sponsor vraiment derrière, etc. Donc j'ai déjà eu ce stress de compétition, mais c'était pas le même niveau. Mais surtout, ce qui était bien, c'est que moi je faisais du roller depuis toute ma vie, je m'entraînais depuis des années et des années, et donc en fait, quand je voyais tous ces autres compétiteurs, eux, ils avaient réellement commencé que depuis qu'il y avait la mode du roller en ligne. Donc en fait, j'avais énormément d'avance. Donc même si j'avais eu un manque pour m'habituer au roller en ligne, c'est pour ça que j'ai été sponsorisé ce soir-là, c'est-à-dire que les gens ont vu que il fallait juste que je m'habitue au roller en ligne et que j'allais tout exploser. Et c'est ce qui s'est passé parce que 6 mois après, quand j'ai enfin été prêt, j'ai pas fait de compétition pendant 6 mois, après ce soir-là, pour vraiment m'habituer au roller en ligne. Et après ça, j'ai commencé des compétitions. Et je me rappelle l'année qui a suivi, du coup, j'ai fait 33 compétitions en une année. J'en ai gagné 23 et j'ai pas loupé une fois le podium.
Parce que attends, j'ai vu tes stats, elles sont juste incroyables. Elles sont, on peut dire que tu es encore aujourd'hui le plus titré dans le monde du sport.
Alors, je ne sais pas encore en cas, aujourd'hui, mais à l'époque, en tout cas, j'ai été. Ouais.
Du coup, j'avais les stats. Alors, tu corriges 115 compètes en pro, 109 podiums, 75 victoires.
C'est ça.
Je pense que dans n'importe quel sport, on aimerait avoir ces statistiques.
J'étais vraiment content, même pendant des années. Je me rappelle, je n'avais pas loupé le podium une fois. Vers la fin, j'ai commencé à perdre. Donc, j'ai perdu globalement 6 fois le podium.
Tu avais des meilleures stats un peu avant la fin, mais forcément.
Forcément. Mais oui, c'était super. J'ai réussi. Et ça, c'est le tennis qui m'a beaucoup aidé. En tout cas, mentalement, à toujours être fort le jour J pendant la finale, à ne pas craquer. On le voit justement sur mes stats, c'est-à-dire que j'arrivais à être relativement constant, à pas avoir les jambes qui tremblaient le jour J.
J'allais faire une mauvaise blague, tu veux pas être coach mental du Paris Saint-Germain, ils ont besoin d'un peu d'aide. Mais du coup, j'ai vu que donc tu gagnes tes premiers championnats du monde à Lausanne en 97, mais tu fais tes premiers un an avant, et si j'ai pas de bêtises, je crois que tu te blesses à cette première compétition.
Ouais.
Et du coup, ça devait être compliqué. Enfin, c'était les premiers championnats du monde. T'arrives.
Voilà. Évidemment, j'ai eu un peu des malchances avec les championnats du monde parce que les tout premiers, même en roller en quad, je m'étais cassé la hanche. La deuxième fois, j'y suis retourné. Le championnat du monde a été annulé parce que la rampe s'était écroulée. La troisième fois, ça a été annulé. L'événement a été décalé. La quatrième fois, donc tout ça, c'était en quad avant de finir en inline. Et enfin, je me retrouve enfin en inline et je vais à Lausanne à cette grosse compétition qui était considérée à l'époque comme les championnats du monde, et là je me tape la tête et je suis à deux doigts de me casser les cervicales, je pouvais même plus marcher sur le moment, et donc j'ai eu très peur et donc j'ai tous les ans il m'arrivait quelque chose, c'était infernal, impossible de participer à un championnat du monde une fois, genre ça faisait 5 championnats du monde et à chaque fois il se passait quelque chose, soit j'avais un accident, soit l'événement était annulé, etc. Et donc la sixième fois c'était en 97. Et là, je savais que si le jour où j'allais participer, j'allais gagner. En tout cas, c'est ce que je me disais pour me motiver. Et ça, en tout cas, ça a été le cas puisque j'ai participé, j'ai gagné cette fois-là.
Et c'est quoi tes souvenirs justement
Lausanne, c'est plutôt l'événement de Lausanne. Lausanne était un événement qui avait une super ambiance, où il y avait énormément de monde. C'était pas comme les événements aux États-Unis que j'ai découvert après, où c'était des compétitions à l'américaine, avec un circuit américain, un peu comme l'ATP au tennis, etc. Lausanne, c'était l'événement le plus symbolique qui à l'époque, en tout cas, était là. Et donc, tout le monde y allait, il y avait une ambiance, etc. C'était hyper excitant, stressant. Hein. Les compètes sont stressantes, mais magique quand on arrive à réussir son run et à gagner. C'était fabuleux.
Et après, du coup, bon, tu regagnes en 99. Et après, il y a l'année 2001, je pense que c'est l'année la plus.
Voilà, après, il y a eu différentes périodes. J'ai gagné des différentes compétitions, mais c'est vrai que ma meilleure année, c'était 2001.
Là, tu gagnes tout, là.
Parce que voilà, j'ai réussi à faire ce que j'appelle le grand chelem, c'est-à-dire qu'il y avait les 10 plus grosses compétitions à l'année. C'était Bercy, les championnats du monde, Lausanne, les X Games, les Gravity Games, la finale ASA qui est comme l'ATP au tennis, qui est le circuit international. Je crois qu'il y avait la finale. Voilà, en gros, il y avait les 10 plus grosses compétitions et j'ai réussi à les gagner les 10 dans la même année. Donc ça, c'était super.
Et du coup, j'essaie de comprendre. Bon, du coup, j'imagine que tu avais un niveau incroyable, mais il y a autre chose aussi. Enfin, il y a un moment pour. Je sais pas, tu avais des concurrents qui étaient aussi très talentueux.
Bien sûr. Alors après, j'ai ce que j'arrivais finalement à faire, c'est que j'arrivais à déjà plein de choses. Déjà, c'est-à-dire que j'arrivais à analyser stratégiquement quelles étaient les figures qu'il fallait apprendre pour gagner. Et par exemple, ce qui m'était arrivé, c'est que genre 3 semaines avant les X Games, donc les X Games qui sont considérés comme les Jeux Olympiques des sports extrêmes, c'est la compétition la plus connue de toutes. Et donc 3 semaines avant d'y aller, je vois un Américain à l'entraînement qui tente un double saut périlleux arrière.
Un double backflip.
Et je vois que toutes les télés américaines se jettent sur cette figure. Et je vois que finalement, si cet Américain fait cette figure le jour des X Games 3 semaines après, ils vont le mettre premier parce qu'ils avaient trouvé en quelque sorte l'excuse absolue de faire gagner un Américain parce qu'il faisait une figure que personne faisait. Et donc, stratégiquement, j'ai compris que celui, trois semaines après, qui allait faire le double saut périlleux et qui allait le réussir pendant la finale, il va gagner. Parce que les chaînes de télé montaient cette figure en scène comme le Graal du Graal. Et même si c'était une figure que j'ai jamais voulu apprendre parce que j'avais cette mentalité de me dire que ça faisait trop gym, etc. Et j'avais tort, parce qu'en réalité, c'est une figure à spectacle. Quand tu l'as fait, le public, elle est dure à faire en plus. Et donc, le public ça, est impressionné. Et donc, très vite, dès que j'ai compris ça, je suis rentré en France. Et les trois semaines que j'ai fait, j'ai travaillé le saut 500 fois pour le maîtriser parfaitement. Et je me suis pointé trois semaines après aux X Games.
C'est 500 fois, tu l'as réussi 500 fois ?
Alors, je ne l'ai pas réussi 500 fois. Je l'ai raté 500 fois jusqu'à le réussir.
Jusqu'à le réussir, ouais.
Voilà. Et comment j'ai fait ça ?
Tu ne maîtrisais pas encore à perfection, du coup.
Ah ben, alors, à la fin, je commençais vraiment à le maîtriser à perfection. Okay. Au bout de 500
pour
essais.
Pour le caser dans un run.
Et en fait, un de mes secrets aussi, c'est que quand j'ai commencé à faire trop de compétitions et à grandir, à évoluer en termes d'âge, etc., je commençais à prendre trop de risques et à partir trop à l'hôpital en me cassant les bras et les jambes. Et je voyais qu'il y avait des petits jeunes qui avaient moins peur et qui étaient plus flexibles et qui arrivaient, eux, à faire des figures sans risque. En tout cas, en se cassant moins.
En se blessant moins.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai inventé un airbag de sécurité que j'ai gardé secret pendant des années. Et donc ça m'a permis de remettre une couche et de vraiment avoir un coup d'avance, parce que pendant que les autres avaient peur de s'entraîner sur des figures dangereuses, parce que quand tu dois tenter un double saut périlleux sur une rampe en bois, comment tu le tentes, il faut se lancer, et tu sais que tu vas te cracher et tu vas peut-être te casser un bras, une jambe, ben moi j'avais construit cet airbag que j'ai gardé secret et qui me permettait de tenter la figure des centaines de fois sans risque. Et donc ça m'a permis pendant 10 ans de m'entraîner en secret à des figures qui avaient toujours un coup d'avance par rapport aux autres. Et tous les ans, j'arrivais avec une figure totalement nouvelle que j'avais appris grâce à cet airbag. Et le temps que les autres l'apprennent, ben moi, j'en apprenais une nouvelle. En fait, j'avais vraiment toujours un coup d'avance grâce à ces entraînements et à cet airbag. Et le soir aux X Games, avec le double saut périlleux, je me rappelle, j'avais été voir le patron de la chaîne de télé. Et j'ai dit au patron, bah, parce que je savais qu'il mettait en avant le saut. Et je leur ai dit, bah, je vous informe que je le maîtrise parfaitement et que je le ferai dans le saut. Donc,
ce qu'il faisait quand même, parce que c'est pas...
Ouais, bah après, en tout cas, je n'étais pas 100% sûr de le réussir, mais j'avais quand même...
Quand tu pars, quand tu fais ton run, tu sais que tu vas le faire...
Il est planifié à 100%, etc.
Il n'y a pas d'impro.
Mais ce qui était drôle, c'est que j'ai joué le spectacle en disant aux juges, etc., que je l'avais jamais tenté, parce que j'allais pas leur dire que j'avais un airbag à la maison. Et donc j'ai fait un sort de buzz spectacle en disant, ben, tout le monde parle du double saut périlleux, je vais le tenter pendant mon run en finale. Donc okay. Ça a fait une euphorie de folie, parce que tous les juges, ben, ils ont dit, incroyable, le mec il a vu ça trois semaines avant, il va le tenter le soir de la finale, etc. Et là évidemment je le tente et je le réussis là où l'Américain le rate, et du coup les juges sont finalement dans quasiment l'obligation de me mettre premier. Donc ce que je veux dire, c'est que quand j'analyse tout ça, ça a été vraiment un mélange dans ma carrière, donc d'entraînement acharné, mais aussi de stratégie, c'est-à-dire d'intelligence dans le travail, à fabriquer des airbags pour pouvoir m'entraîner comme ça, à créer le buzz dans les médias, en tout cas sur les juges à cet endroit-là, ou à la chaîne de télé pour dire que, évidemment, quand j'ai dit à la chaîne de télé que je maîtrisais ce double saut périlleux, eh ben, les caméras me suivaient automatiquement beaucoup plus que si je ne l'avais pas dit.
Ah oui, bien sûr.
Voilà. Donc c'est vraiment un mélange de tout ça qui a fait la différence. Aussi, je pense que j'ai appris avec les années à être peut-être meilleur à exprimer, à expliquer mon sport dans les interviews, ce qui automatiquement m'a permis d'avoir plus d'interviews et ouais, plus de notoriété.
Ce qu'on appelle le personal branding. Donc t'étais dans le sport, t'étais capable de le faire.
Bah, j'avais pas aussi le choix, parce que en fait j'étais un peu frustré d'être dans un sport extrême qui avait aucune notoriété. Et quand j'étais face à des footballeurs ou des tennismans qui avaient tout sur un plateau, les médias étaient derrière eux, ils avaient vraiment les managers, ils avaient tout. Donc j'étais obligé d'être proactif et être beaucoup plus ingénieux et arriver à communiquer mon sport mieux pour sortir du lot, quoi.
Et tu vois comment, si on compare aujourd'hui ces sports extrêmes avec l'avènement des réseaux sociaux, est-ce que c'est plus simple, ou comment tu compares les deux générations ?
Alors c'est vraiment différent. C'est vrai que à l'époque, C'était beaucoup plus de la compétition, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus, surtout en rampe, c'était, il y avait un circuit de compétition, il y en avait une vingtaine, une trentaine par an, donc de week-end, et c'est celui qui arrivera à faire le meilleur enchaînement, etc. Donc c'était vraiment de la compétition. Aujourd'hui, et en plus à l'époque, les gens étaient très très impressionnés parce qu'ils ne voyaient jamais des figures comme ça à la télé. Donc je me rappelle même quand on mettait des rampes dans un centre-ville et on faisait un show, c'était, on s'en était comme des, pour des rockstars.
La rareté de l'événement.
Les gens n'avaient jamais vu ça. Donc ils avaient l'impression d'avoir des super-héros qui s'envolaient dans les airs. On était vraiment des rockstars. Je me rappelle par exemple, je faisais des shows en Espagne et on avait une pause de 2 heures entre chaque show et on avait 3 shows par jour. Quand on descendait de la rampe, tellement le public se jetait sur nous pour faire des autographes qu'on ne pouvait pas arrêter les autres, on ne pouvait même pas bouger de la rampe. On finissait les autographes, allait recommencer le deuxième show et comme ça toute la journée, quoi. C'est-à-dire que c'était tellement une euphorie, hein, c'était dingue. Et aujourd'hui, c'est différent parce que en 3 clics sur les réseaux sociaux, on voit des figures qui sont même beaucoup plus impressionnantes que nous, ce qu'on aurait pu faire à l'époque. Donc en fait, aujourd'hui, si on met une rampe dans le centre-ville et on fait un spectacle, il y a 200 personnes qui vont s'arrêter et ils vont dire bon bah ouais, c'est pas mal, mais de toute façon sur YouTube je vois beaucoup mieux, quoi. Donc aujourd'hui c'est un nouveau monde, c'est un monde où chaque personne doit devenir son propre communicant. C'est beaucoup plus une soit du voyage, soit des figures incroyables, mais ça pousse aussi les athlètes à prendre beaucoup plus de risques. L'athlète qui veut faire des millions de vues sur YouTube, soit il a de l'originalité et donc qui fait des vidéos assez drôles ou différentes avec de la ride, il va rider, je sais pas, une vague en surf au fin fond de je sais pas quel pays.
Ça peut être sur la personnalité aussi.
Sur les personnalités, ouais. Etc. Ou sinon, c'est sur la figure la plus incroyable. Sauf que là, la barre, elle monte de plus en plus. Là. C'est la surenchère.
C'était dingue parce que pour moi, dans le sport extrême, du coup, il y avait ta figure, que t'avais le double backflip, et puis à l'époque aussi, alors je sais pas si c'était à quelle époque par rapport à la tienne, mais le 900 de Tony Hawk.
Le
900 de Tony Hawk, c'était de mémoire, c'était pas pendant un run, c'était plus un best trick.
C'était le best trick qu'on passe. J'y étais en plus, c'était à San Diego. Je crois.
C'était quand, en quelle année par
c'était
rapport
97.
À... Ah non, c'est pas plus vieux, ouais, ouais, j'avais du mal.
C'était 97. Ouais.
Ça, c'était incroyable aussi.
Ah oui, c'était une sacrée étape parce que le 900 degrés est une figure très 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 difficile à réussir. Je veux dire, même en roller, alors que c'est plus facile en roller quand même qu'en skate parce qu'on n'a pas à tenir tenir la planche et taper à 900 degrés, c'est vraiment dur. Mais même en roller, quand on fait le bilan sur les 15 dernières années, il y a peu de gens qui ont réussi à le faire. Il doit y avoir le 900 degrés, il doit y avoir 6-7 personnes au monde qui l'ont fait en roller et en skate pareil. Hein. En skate pareil.
Tu as tenté le 900?
Moi je l'ai fait. Je l'avais fait même avant Tony Hawk, alors ça, c'est incomparable, surtout que c'est beaucoup plus dur comme je disais en skate. Mais ouais, je l'avais fait, je crois de mémoire, je crois 92, 93.
Et donc même sur les quads comme tu dis.
Ouais. Ah oui, c'était en quad déjà. Je faisais déjà le 900 en quad.
Ok. Ouais. Et du coup, de toute cette carrière professionnelle, qu'est-ce que tu retiens? Alors du coup, il y a eu bien sûr les blessures
les blessures, mais ça faisait partie du job, les accidents assez.
Parce que tu avais quand même une histoire de... Excuse-moi, mais j'avais lu que tu avais eu 2 blessures successives, que tu avais fait 1 an de blessure, ouais. T'en as une deuxième après, donc ça a été un gros coup moral là aussi.
En fait, j'ai toujours eu des accidents comme tout le monde, hein, surtout dans le sport de haut niveau, dans les sports extrêmes, ça fait partie du quotidien, mais... À chaque fois que j'ai commencé à me casser les bras et les jambes, petit à petit en grandissant, je me disais qu'il faut que je fasse autre chose parce que j'avais non seulement la responsabilité familiale, je m'occupais de mes parents, etc. Et j'ai toujours eu envie de plus, c'est-à-dire que être uniquement champion de roller ne me suffisait pas. J'avais envie de penser plus à mon avenir, construire des choses, etc. Et j'avais envie de promouvoir mon image et celle des sports extrêmes. Et donc, quand j'avais des sociétés qui ne faisaient pas les choses, au final, je créais moi-même les boîtes pour le faire à leur place. Parce que, par exemple, je voulais vendre mon image dans des gammes de papeterie scolaire pour les enfants. Et les sociétés comme Clairefontaine, etc., me disaient que on n'était pas assez, en tout cas moi, j'étais pas assez populaire et pas le sport extrême à la base ne l'était pas. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai créé moi-même et j'ai référencé ça à Carrefour et Leclerc Casino.
Ça, c'était pendant que tu étais à l'hôpital, si je me
souviens. Voilà, exactement. J'ai commencé
comme quoi,
ça à l'hôpital.
Ça t'a aidé pour entrer dans le business.
Exactement. Après, j'ai eu plein de choses. J'ai eu un magasin de roller. J'ai designé des skateparks sur AutoCAD et que je vendais aux mairies. J'ai acheté mes rampes et je faisais des shows avec ces rampes. J'ai même presque fabriqué à un moment, quand je suis presque lancé à faire des biscuits chocolatés sous licence. J'ai fait des boissons énergétiques de type Red Bull avant que Red Bull arrive en France.
Et ça, c'est pendant ta carrière quand tu faisais du roller.
Toujours en parallèle. Donc j'ai toujours eu l'envie de créer. C'était pas spécialement une envie d'être un homme d'affaires à dire je suis businessman. C'était pas question de ça. C'était l'envie de créer des choses et les voir se réaliser. Puisque ça n'arrivait pas, il fallait que je le fasse moi-même.
Et justement, sur la boîte de papeterie pour enfants, c'est la première qui a duré quelques années, notamment.
Ouais. Alors, il y a le magasin de roller qui avait duré pas mal de temps. Mais le magasin de roller, c'était pas 100% une initiative personnelle. C'était plus mon père, parce que moi, j'étais jeune, il me voyait faire mes compètes. Il se disait ça allait pas durer des années. Donc, il m'a convaincu à me dire, écoute, tu as une image dans le roller, on va créer un magasin de roller et on va vendre par rapport à ton image. Et donc, le magasin de roller, c'était pas vraiment un projet personnel. Et c'était mon père qui s'en occupait, alors que la gamme de papeterie, c'était différent. C'était vraiment moi.
C'était ton business.
Et c'était moi qui ai eu l'idée et qui l'ai construit et qui faisait même les designs la nuit sur Photoshop au début, quoi.
Ah, donc, c'était parti de rien du tout. Et ça a duré 3
ans. De rien du tout. J'étais sur mon lit d'hôpital. J'ai imaginé. D'abord, j'ai appelé des sociétés comme Clairefontaine. Ils m'ont en gros fermé la porte au nez. Après, je me suis dit, je vais directement appeler le responsable de la centrale Carrefour. Et j'ai appelé donc l'acheteur national du rayon papeterie et j'ai réussi à obtenir un rendez-vous et donc je me suis enfermé devant mon ordinateur à essayer d'apprendre à faire du design sur Photoshop, à fabriquer des prototypes comme je pouvais avec des collages. J'achetais les agendas, les trousses, les cartables, les stylos, etc. et j'imprimais et je coller, je coupais avec un ciseau pour donner l'illusion que c'était mes produits. Je mettais mes designs sur des agendas ou des cahiers qui existaient et j'allais comme ça les vendre à Carrefour. Et j'ai réussi comme ça à convaincre Carrefour Casino à me présélectionner et à vendre des centaines de milliers de produits. C'était super.
Ah, c'était sur des précommandes qui t'ont permis après de financer la production de ces
produits. Voilà,
ces
en fait, ils s'engageaient à acheter un certain nombre de produits et moi, après, il fallait les livrer, etc.
T'avais déjà les bons concepts des startups, de faker, comme on dit, de faire semblant d'avoir un produit avant de l'avoir et puis après de le vendre.
Voilà, alors les gens imaginaient quoi, les acheteurs imaginaient bien que c'était des prototypes, mais ils n'avaient pas compris que c'était un prototype aussi simple, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas compris que j'ai été à Carrefour, j'ai acheté un cahier et j'ai juste remplacé la couverture avec une imprimante 3D et de la colle et un ciseau, quoi.
C'est une bonne histoire en tout cas pour démarrer un business.
C'est sûr.
Et du coup, donc c'est sur la fin de ta carrière, du coup, en tant que professionnel dans le roller.
Ouais.
Et après, il y a eu aussi il y a pas mal de choses à ce moment-là. C'est là où tu as commencé les projets incroyables. Justement, alors, tu parlais d'aimer la voltige. Là, pour le coup, t'en as eu de la voltige. Je pense aux deux
records.
Je crois que c'est sur W9 que ça passait, les émissions.
Voilà, ouais. En fait, ce qui s'était passé, c'est que après tout ça, j'ai commencé à présenter beaucoup d'émissions télé. Donc ça, c'était super, des sortes d'émissions d'aventure de sport extrême.
C'était quoi il y avait sur Extrême Sport.
Extrême Sport, il y avait le Taïk Show, il y avait Extrême Aventure, donc différents shows que je présentais. Donc je me retrouvais à être vraiment présentateur télé.
Tu kiffais, du coup, t'apprenais des choses.
Je kiffais, mais j'étais pas, comment dire, mon rêve ultime n'est pas d'être présentateur télé. C'est beaucoup plus de vivre les choses moi-même. Donc ce que j'aimais dans ces shows télé, c'est que c'est clair que j'allais à la rencontre de gens dans des pays lointains et j'essayais moi-même des disciplines, etc. Tout ça, c'était vraiment canon, mais j'avais j'avais pas envie de faire que ça pour le reste de la vie que j'avais devant moi. Donc j'avais
une phase transitoire.
Voilà, c'était, je le faisais, mais en parallèle de ça, j'avais le cerveau qui bouillonnait et je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et je me rendais compte que continuer les compétitions de roller, ça allait pas m'amener, ça me faisait pas passer un cap médiatique ou quoi que ce soit. Et même, j'avais fait le tour, j'avais gagné plusieurs fois les championnats du monde et je voyais bien que ça allait pas faire de différence d'en gagner un en plus ou un en moins. Et donc, en discutant avec mon producteur justement de télé, je me suis dit, il faut que j'arrive à faire un record sur un monument symbolique, un énorme monument historique connu de tous, qui permet de démocratiser mon image et celle du sport. Et là, je savais que j'avais trouvé l'astuce, en quelque sorte, de vraiment passer sur les chaînes, les grandes chaînes, etc. Et donc, la première idée que j'avais eue, c'était de sauter par-dessus la scène devant Notre-Dame. Et donc, je suis parti bien en tête. J'ai la chance de voir que les problèmes, jamais les solutions.
C'est quoi la distance de la...
Je dis l'inverse plutôt. Que les solutions, de voir que les solutions, jamais les problèmes.
C'est quoi juste la distance pour...
C'était à peu près un saut de 35 mètres de long. C'est beaucoup, mais c'est totalement faisable. Et c'est pas le fait de faire un saut de 35 mètres qui est la symbolique. C'est le fait de sauter par-dessus la scène, devant Notre-Dame, etc. Et donc... ce qui s'est passé, c'est que je suis parti bien en tête à motiver toute une équipe, etc., et à fabriquer un dossier technique pour avoir l'autorisation.
Il faut demander à la mairie.
À la mairie, à la préfecture, etc. Malheureusement, ça a été refusé. Et donc, je suis parti sur un autre monument qui était la Tour Eiffel. Et comme ça, pendant 2 ans, j'ai eu des allers-retours non-stop avec toutes les institutions où je me suis battu pour arriver à obtenir cette autorisation impossible de sauter de la Tour Eiffel.
Comment on finance ? Ça doit coûter cher, j'imagine.
Alors, ça coûte super cher. Ça coûte 1 million d'euros, globalement 1 million d'euros. Mais en fait, quand on arrive à obtenir l'autorisation impossible... d'avoir la Tour Eiffel...
On se dit que l'1 million, on va les trouver.
Le million, les sponsors sont... Alors, c'est pas facile à trouver. Et pour la preuve, au début, j'ai quand même... Jusqu'à la fin, j'avais pas trouvé assez d'argent. Donc, j'ai même mis de l'argent perso. Tout ce que j'avais, toutes mes économies, je les ai mis dedans. J'ai mis 150 000 euros, c'était... Tout ce qui me restait, qu'un sponsor devait me payer, je l'ai mis dedans. J'ai réussi à convaincre tous les fabricants de structures, etc., à me faire gratuit.
Quand tu mets tout, excuse-moi, mais tu mets toutes tes thunes dans le projet, c'est, du coup, c'est quoi ce que tu te dis? Ça va avoir un retentissement tellement fort que d'ailleurs, je vais pouvoir
le
maximiser.
Alors, évidemment, j'y ai pensé, mais c'est même plus profond que ça. C'est que ça faisait 2 ans que je me badais comme un diable. J'obtiens une autorisation impossible et avant tout, je suis un rêveur. C'est-à-dire que je n'ai pas... Bien sûr que tout le monde est content d'avoir un peu plus de confort, d'avoir une plus belle voiture ou une plus grande maison, etc. Mais c'est pas ça qui me fait me lever le matin. Moi, je suis un rêveur et un créateur. J'ai besoin d'imaginer des choses et me battre pour les réaliser et de toucher l'impossible. Et donc me dire que ça, j'allais pouvoir sauter de la Tour Eiffel et avoir cette chance, ça n'a pas de prix. Et donc, j'ai pas réfléchi une seconde. J'ai dit à mon sponsor qui me payait ses 150 000 euros, je lui ai dit, bon, vous avez mon image gratuitement et donnez-moi l'argent maintenant pour que je le mette dans l'événement. Et je regrette pas une seconde. Et c'est vrai que je me disais, en plus, si ça marche, ça aura automatiquement des répercussions qui me permettront de récupérer cet argent. Et quand on fait le bilan, je les ai récupérés largement, puisqu'il y a eu un avant et après saut de la Tour Eiffel. C'est-à-dire pour les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, pour toujours, je resterai le seul mec qui a sauté de la Tour Eiffel en roller. Donc ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire.
Et qui a réussi, qui s'en est sorti.
Ouais, vivant.
Vivant, ouais. Parce que bon, y en a qui, il ne faut pas donner d'idées aux gens.
C'est sûr, c'est sûr.
Et justement, donc, je me souviens très bien, c'était genre vers 2010, un truc comme ça, 2011. Et donc, quand on te voit monter en haut dans la nacelle, et tu te dis quoi là, enfin, c'est... Parce que tu peux pas t'entraîner, t'as pas fait des sauts d'entraînement avant.
Voilà, alors j'ai pas fait des sauts d'entraînement. C'était diabolique psychologiquement parce que ça faisait une peur infernale.
Parce que t'as combien de mètres là ?
J'ai 40 mètres et j'arrive à 100 km à l'heure en bas de la rampe, j'ai pas la distance pour m'arrêter, etc. C'est diabolique. Mais donc, j'ai manipulé en quelque sorte mon cerveau à la troisième personne, c'est-à-dire que je savais que quoi qu'il arrive, il fallait que je saute. J'ai pas fait tout ça, mais toutes mes économies, j'ai 100 000 personnes pour me dégonfler devant 100 000 personnes. Non. Donc je me suis dit, de toute façon, que tu aies peur ou que tu aies pas peur, le résultat va être le même. Donc, dans un sens, autant ne pas avoir peur. C'est un tel niveau de psychopathe, en quelque sorte. C'est-à-dire que quand on est à 40 mètres sur cette nacelle qui tangue avec le vent, il faut faire en sorte de sauter l'élastique sans élastique et qu'on a des vraiment risques réels et qu'on ne l'a jamais fait, etc. Le cerveau te dit de ne pas y aller. Donc, il y a un moment... J'ai quelque sorte dépassé ça. Je me suis dit, de toute façon, tu vas sauter. De toute façon, accepte le risque que tu dois avoir. Si tu dois te casser un bras ou une jambe, c'est pas très très grave. Ça t'est déjà arrivé tellement de fois. Et en plus, c'est un des moments les plus forts de ta vie. Et donc, ne va pas gâcher ça avec de la peur. Et donc, en manipulant mon cerveau de cette façon-là, réellement, le jour J, j'avais plus peur. Parce que j'avais accepté le risque. Je savais qu'il fallait que je le fasse. Et je me suis dit... si quelque chose de grave arrive, c'est pas grave, je l'accepte. Et donc, j'avais plus peur et je profitais du moment en me prenant en quelque sorte un peu comme un sort de Superman le jour du saut, quoi.
Et on en parle encore. Donc, c'est un truc qu'on en parlera encore dans 10 ans, 20 ans.
C'est magique.
Et tu compares comment par rapport au saut au Sacré-Cœur, en longueur cette
fois-ci ? Alors, le saut Sacré-Cœur était... également beaucoup était plus dangereux finalement techniquement parce que si j'arrivais pas pile à 51 km à l'heure au décollage, et ben là je pouvais j'étais trop court ou trop long. Aïe. Et là je me cassais dans les deux cas les jambes et tout, donc il fallait que les ingénieurs ne se gourent pas. Parce que c'est les ingénieurs qui avaient calculé que j'allais arriver pile sur le tremplin à 51 km à l'heure. Jusqu'à 52, je restais globalement en vie. Jusqu'à 50 également, j'avais cette petite marge d'un kilomètre à l'heure de plus ou de moins. Et donc, ça faisait vraiment peur de faire confiance, en quelque sorte, à d'autres personnes qu'à soi-même. Même si j'ai énormément confiance aux ingénieurs. Mais je me rappelle, la veille au soir, j'ai repris tous les ingénieurs. J'étais dans un café et je leur ai demandé de refaire tous les calculs devant moi pour être sûr qu'ils ne se gouraient pas. Parce que le lendemain, s'ils se gourent...
C'est pas eux qui sautent. Hein.
C'est pas, voilà, c'est pas eux qui vont avoir les jambes cassées. Ouais. Mais après... ce que j'ai regretté finalement sur les deux sauts, c'est que j'ai pas eu suffisamment, même pas du tout, de temps d'entraînement dans la même situation. Et donc le fait de pas être dans la même situation, les réceptions étaient toujours extrêmement difficiles, soit parce qu'au Sacré-Cœur, j'atterrissais sur quelque chose qui était une vraie patinage à glace, parce que c'était un terrain qui était extrêmement glissant, qu'on a découvert le jour du saut. Parce que j'avais pas pu l'essayer
avant.
C'est
sans préparation ces choses-là de toute façon.
Voilà, c'est en gros sans préparation.
Ah, tu sais, parce que du coup, tu aurais aimé rester sur les...
Bah oui, évidemment, j'aurais aimé et ça me frustrait parce que je maîtrisais le saut parfaitement dans sa longueur. J'atterrissais pile sur mes patins, en équilibre et mes roues sous mes pieds.
C'est l'adhérence.
C'est l'adhérence, elle partait glisser comme si j'atterrissais sur de la glace. Donc ça, c'était extrêmement frustrant. Après, c'était magique d'être sur un symbole comme le Sacré-Cœur, à voir, voilà, il y a, je sais pas combien de milliers de personnes sont venues, mais il devait y avoir peut-être 50 000. Il faisait beau en plus ce jour-là, donc j'avais la vue de sauter comme au-dessus de Paris. En plus, ce qui était drôle, c'est que la réception, je pouvais la voir que quand j'étais dans l'air. Parce que vu qu'elle était 12 mètres plus bas, au décollage, sur le tremplin de départ, je ne voyais pas la réception. Donc en fait, c'était un sort de comme une piste de ski, on descend cette piste, et on voit juste Paris. On voit juste Paris, on ne sait pas où on va aller. Et il y avait même parfois des pigeons qui volaient, donc j'avais peur de me prendre un pigeon dans l'air. C'était drôle. Et une fois qu'on est dans l'air, à voler pendant pas mal de temps, c'est là où on voit enfin la réception, où on va atterrir. Non, c'était assez magique.
Et ça doit être bizarre parce que... Alors nous, quand on regarde, ça doit durer quoi? Allez, une seconde et demie, deux secondes à l'air, et toi, ça doit durer.
Ah, c'était des sensations d'adrénaline, surtout à la Tour Eiffel, que j'avais jamais ressenti avec autant de force et de vitesse. Je me rappelle encore du vent qui sifflait dans mes oreilles. Ça sifflait parce qu'il y a une accélération de zéro. On part de zéro en haut de la nacelle et on accélère en deux secondes à 100 km à l'heure. Donc c'est une accélération impressionnante.
Moi qui ai un peu le vertige, j'avais déjà rien que le vertige à regarder. On voyait la vue, on voyait avec le vent, comme tu disais, qui faisait bouger la nacelle.
Mais ce qui est drôle, c'est que moi aussi j'ai le vertige. C'est ça, les gens, ils ont du mal à le croire. Mais en fait, je suis pas du tout à l'aise en hauteur. Et donc j'avais évidemment les jambes qui tremblaient. Et il faut vraiment que je me fasse violence pour arriver à surpasser. Heureusement, c'est un vertige que j'arrive à contrôler avec du mental. Mais mais je suis pas du tout à l'aise, quoi. Alors qu'il y a certaines personnes qui ont aucune peur de la hauteur. Ma mère, par exemple, elle a pas du tout le vertige. Pour donner une petite anecdote assez drôle, les gens, ils vont comprendre un peu d'où vient ma folie. On avait un petit chat à la maison et le petit chat, il était monté en haut de l'immeuble. Et il s'était coincé là-haut. Et ben, à 8h du matin, ma mère, elle s'est levée un peu tôt et elle voyait le petit chat en haut de l'immeuble. Ben, elle a grimpé l'immeuble elle-même, elle allait le chercher.
Okay.
Alors, on l'a tous engueulé parce qu'elle aurait pu mourir, oui. Réellement. Et on lui dit, mais t'es folle, tu fais déjà, il ne faut pas le faire. Mais en plus, tu ne nous le dis pas et tu le fais à 8h du matin. Mais donc, voilà, ça montre peut-être d'où vient un peu ma folie.
Bonne anecdote, ça. Et donc après ces exploits médiatisés, donc il y avait pas mal d'émissions de télé que tu as pu faire. J'en pense notamment à deux. Je voulais te demander, alors c'est deux qu'on n'a rien à voir, mais savoir un peu la
Koh-Lanta danse avec les stars.
Ouais, voilà, les deux là, parce que du coup c'est les deux sur TF1. Si tu devais les comparer, je sens qu'il y en a une qui est peut-être physiquement compliquée et une techniquement compliquée.
En fait, il y a eu trois émissions avec Pékin Express. Donc ces trois émissions de deux d'aventure et une de danse, en fait les
encore des challenges du coup.
Des challenges. À chaque fois, moi je voyais ces émissions comme un challenge personnel. La danse avec les stars, j'ai pas réalisé la difficulté du challenge au début. Je me rappelle, on avait genre deux semaines d'entraînement avant le premier prime ou trois trois semaines, et donc je faisais les entraînements, mais en même temps de d'autres rendez-vous que je faisais à côté, c'est-à-dire que je le prenais pas autant au sérieux. Au premier prime, je me suis pris une claque parce que déjà, j'ai vu que j'étais le dernier des derniers, que tous les autres étaient beaucoup plus entraînés que moi et que j'allais du coup me faire éliminer très rapidement si je me surpassais pas. Le compétiteur est revenu à la charge. Et en plus, quand on est dans le noir les 3 secondes avant que le prime démarre et qu'on entend une danse de un cha-cha voilà, et que Ty Chris et sa partenaire vont, et que là on se dit ok, dans 3 secondes je vais être ridicule à danser devant 6 millions de personnes.
C'est 6 millions, c'est samedi soir en même temps.
C'est ça, c'est vendredi ou samedi soir, donc c'est vraiment, ou 5 millions, mais bref, c'est démentiel. Et donc après le premier prime, j'ai arrêté toutes les réunions que j'avais, j'ai tout annulé.
100% du temps.
100%, et j'ai fait 11 heures par jour, dimanche inclus, tout le temps, pendant 3 mois. Et là, du coup, j'ai eu une super progression. Et grâce à ça, le public a voté en me gardant et j'ai fini en finale. Donc ça a été une super aventure. Mais voilà, je l'ai vraiment pris comme un challenge personnel et comme des pages que je tourne. Koh-Lanta et Pékin Express, c'était aussi des challenges personnels à faire et aussi se découvrir. Finalement, le challenge sportif, c'est ce qui me dérangeait le moins sur Koh-Lanta et Pékin Express, parce que je suis un sportif, et au contraire, quand il y avait des épreuves ou quoi que ce soit, moi j'adore me pousser au bout et l'adrénaline et essayer, et j'ai pas peur de la difficulté et de la douleur de ces épreuves. Ce qui était par contre très très dur pour moi sur Koh-Lanta, c'était en quelque sorte l'emprisonnement et l'ennui. Parce que alors les gens, ils se disent, mais attendez, on se rend pas compte. Mais sur un Koh-Lanta normal, alors nous c'était un peu plus court, mais sur un Koh-Lanta normal, une émission de samedi soir, donc un prime, représente 3 jours d'enregistrement. Et quand on voit les 3 jours d'enregistrement, on a l'impression qu'il se passe beaucoup de choses, mais finalement il se passe pas grand chose. C'est-à-dire que
c'est scripté, mais il y a une histoire qui est racontée derrière.
Voilà,
aussi,
une histoire qui est racontée, mais en gros les 3 jours on tourne beaucoup en rond sur notre île. Il y a rien à faire, et donc ça, on a l'impression d'être vraiment emprisonné sur cette île. Et aussi, je connaissais pas ce que c'était la faim, le fait de vraiment pas manger.
Parce que là, pour le coup, tu confirmes, il n'y a pas d'arrangement.
Il n'y a pas d'arrangement. Pour vous dire, il n'y a même pas de toilette, il n'y a même pas de papier toilette, pour vous dire.
Donc, hein, des fois, il y a des histoires comme quoi, qui auraient, soi-disant.
Non, alors, peut-être au début, il y avait eu un peu plus de laxisme au tout début de Koh-Lanta, et je ne crois même pas, mais en tout cas.
Tu confirmes que tu n'avais pas à manger à côté, on ne filait pas.
Rien du tout. J'ai perdu 8 kilos en 13 jours. Donc ça exprime bien le truc. Donc ça, c'était ce qui était dur, voilà, sur Koh-Lanta, c'était pas du tout les épreuves ni les guerres internes avec les gens, les stratégies, ce genre de choses. Ça, c'est beaucoup plus monté en scène au niveau télé. Ce qui est simplement dur, c'est de pas manger et de tourner en rond sur son île. Moi qui suis un actif, j'ai besoin toujours d'aller de l'avant. Ce qui, pour le coup, était beaucoup moins dur sur Pékin Express, parce que sur Pékin Express, même si on mangeait pas, on avait 1 euro par jour pour manger et 1 euro par jour en Inde. franchement, mange bien.
Et c'est vrai que malheureusement, c'est
voilà, c'est ça. Et sur Pékin Express, tous les jours, c'était un challenge. Fallait aller de l'avant, trouver une voiture, etc. Donc, j'étais pas du tout dans l'ennui.
Oui, là, on est occupé toute la journée.
Hein. Voilà, voilà.
Et donc, Colanta, ça allait, les relations avec les gens d'être en.
Exactement. Là, les gens pensent que sur. Et ça doit arriver, bien sûr, quoi. Et ça arrive sur Colanta qu'il y ait des embrouilles entre les gens. Mais ça, c'est beaucoup plus surmonté en scène. Par le montage télé que la réalité. Une embrouille qui peut durer 10 minutes et on passe à autre chose et il n'y a rien d'autre, et ben, le montage télé peut en faire tout un prime du samedi soir.
C'est vrai, comme c'est scénarisé, du coup, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Et je voulais enchaîner, donc on va arriver à ton expérience entrepreneuriale principale.
Ouais.
J'avais juste un truc avant, j'ai vu une anecdote, je voulais que tu m'en parles. Comme quoi, tu aurais écrit un scénario de science-fiction.
Ouais.
Que tu as passé du temps dessus, enfin, si tu peux nous expliquer un peu cette histoire, du coup, parce que c'est pas connu, je pense.
En parallèle de tout ça, moi, je voulais devenir comédien et je faisais des cours de comédie depuis déjà des années, etc. Et je commençais, à vraiment aimer ça, et quoi, même j'aimais ça, mais je commençais à être suffisamment bon pour être pris dans des films. Et justement, j'ai eu la chance de signer avec certains des plus gros producteurs français qui s'appellent Fidélité et Onyx, un gros long métrage dans un budget à 7 millions où j'avais le premier rôle dans un gros film qui a été écrit par ces producteurs. Et donc je me suis retrouvé à avoir ce rêve qui était en train d'aboutir puisque je faisais des cours de comédie depuis des années. Au final, je me retrouve avec un premier rôle, premier film. C'était une grosse pression, mais c'était génial. J'avais fait les tests d'acting, j'avais été pris, on avait signé le contrat, etc. Donc j'étais extrêmement fier. Et à 2 mois du tournage, un des distributeurs globalement se retire du film. C'était SND à l'époque. Et donc on perd sur les 7 millions de budget qu'on avait, on en perd un et on se retrouve avec 6 millions au lieu des 7. Et globalement, on essaye avec les producteurs de trouver un distributeur de remplacement. On n'arrive pas à le trouver. Et même si 6 millions, ça paraît beaucoup pour faire un film, j'essaye de prendre moi-même le scénario et faire des coupes dedans. Et les producteurs, à un moment, je coupais trop de scènes pour essayer de récupérer de l'argent que le scénario perdait
son intérêt.
Donc le film finalement se retrouve annulé. J'étais un petit peu frustré par rapport à ça. J'ai demandé aux distributeurs la raison pour laquelle ils n'ont pas pris et finalement ils ont dit que le scénario n'était pas suffisamment bien selon leur point de vue. Et du coup j'ai pris ça comme un challenge personnel et je me suis dit ok, très bien, je vais écrire du coup un scénario moi-même qui sera tellement qui sera tellement innovant, etc., qu'ils ne pourront pas le refuser. Personne ne pourra dire ça. Parce que, et voilà, donc je me suis enfermé chez moi pendant un an et demi, quasiment à faire rien d'autre que ça.
Ah, vraiment.
Un an et demi, je ne voyais personne, j'écrivais. Et donc j'ai écrit donc, tout un long métrage, 120 pages, dialogué, etc., sur une idée de film de science-fiction d'anticipation vraiment. En tout cas, que je trouvais top. Sauf que je me suis tiré une balle dans le pied à moi-même. Et ça, c'est peut-être mon côté ambitieux. C'est que je ne suis pas parti sur un budget de 7 millions. Je suis parti sur un budget de 20, 30, 50 millions sans le casse, quoi.
Sachant que quand on écrit un scénario, si je ne dis pas de bêtises, selon comment on l'écrit, on sait déjà souvent le budget que ça.
Exactement,
va,
bah c'était le cas, c'est-à-dire que
tourne la science-fiction, ce qui est plus cher. Donc,
Et finalement, ce que j'avais écrit, puisque j'ai fait appel vraiment à mon imagination et ce que j'aime voir dans les films, et moi j'aime voir les films de science-fiction, etc., j'ai écrit quelque chose qui était beaucoup trop cher en termes de budget.
Un blockbuster américain.
Voilà, quasiment. Et donc, je me suis retrouvé dans une autre situation où il a fallu que je commence à négocier avec des producteurs et des studios américains, et j'ai vite réalisé que. En tant que premier film, c'était déjà un exploit d'avoir pu signer un premier rôle sur un film à 7 millions. Un studio américain n'allait jamais donner un premier rôle à un acteur débutant et qui est sur un film à 20 ou 30 millions.
Est-ce que tu voulais jouer dans le film aussi ?
Moi, je voulais jouer dans le film parce qu'à la base, moi, j'étais acteur. Et donc, c'était vraiment frustrant parce que je me rendais compte que la meilleure des choses que j'allais faire, c'est me faire acheter mon scénario et voir d'autres gens jouer dedans, et moi j'avais envie non seulement de jouer dedans, etc. Et donc à moins de passer 10 ans aux États-Unis à être toujours dans une situation de de demandeur.
Chercher des opportunités.
Chercher des opportunités, et je déteste être dépendant des gens. C'est-à-dire que je refuse d'être dans une situation où je suis dépendant de tous ces gens, etc. Et donc, en plus, en parallèle de tout ça, j'ai eu la chance d'être sélectionné en tant que cascadeur sur un gros film à 300 millions d'euros, sur le film des mecs qui ont créé Matrix, des deux frères Wachowski. Et donc, j'étais la doublure cascade de l'acteur principal qui était Channing Tatum. Donc, pendant un an, j'ai travaillé avec Channing, avec Mila Kunis, avec les frères Wachowski, et j'ai vu de l'intérieur comment les plus grands films hollywoodiens, puisque c'était un budget à 300 millions, se construisaient. Et donc, même si je côtoyais de très 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 proches, puisque j'étais tous les jours avec Channing, qui était mon pote, avec les frères Wachowski, etc. Et donc, le film que j'avais écrit était trop ressemblant un peu à Matrix, donc les frères Wachowski ne pouvaient clairement pas le faire. Même quand je leur en ai parlé, ils voyaient qu'il y avait trop de similitudes. Ça, pour eux, c'était pas jouable. Et je voyais même que même un acteur comme Channing, à moins que ce soit un projet personnel pour lui, un acteur ne le fait pas s'il n'y a pas le bon producteur derrière, s'il n'y a pas le bon réalisateur derrière. C'est un sort de maillon qui se tient. Ces différents maillons qui se tiennent. Et c'est que quand on a l'ensemble de ces maillons, à moins vraiment que ce soit un projet personnel et que l'acteur soit tellement bankable.
Comme dans ton cas, enfin, que ce soit vraiment de la personne.
Voilà, si Tom Cruise, il a son propre scénario, il arrivera à trouver un claquement d'un doigt le réalisateur et le producteur qui va le faire. Mais quand on est personne comme moi, je n'arriverai jamais à trouver le producteur, etc. Donc bref, j'ai réalisé que ce projet, il faut que je le mette dans un tiroir et que je le réinvente d'une façon différente. En tout cas, que je vais sûrement en sortir un jour.
T'as pas abandonné l'idée là, à ce niveau-là.
Hein ?
L'idée n'est pas abandonnée.
N'est pas abandonnée complètement. L'idée, elle est très bonne. Donc, je l'amènerai au bout. Donc, sûrement, un jour, ce que je ferai, c'est que j'en écrirai le roman. Et peut-être le roman, s'il marche, derrière, j'irai à le monter en film. Ou si, carrément, si un jour j'ai les moyens de pouvoir être coproducteur du truc. Et en étant coproducteur, bah, j'aurai beaucoup plus une mainmise là-dessus. Mais globalement. Et sur le tournage du film, je me suis cassé la jambe parce que j'avais une scène où j'avais Mila Kunis qui devait tomber du plafond. Finalement, à la dernière minute, ça a été une cascadeuse qui l'a fait et je devais l'attraper dans les bras. Et la force avec la cascadeuse, la façon dont elle est tombée, son poids m'a cassé la jambe. Voilà. Donc, je me suis retrouvé sur le lit d'hôpital et c'est là où j'étais à me remettre en question d'une façon globale parce que. Mon truc d'acting, ça faisait quand même des années que je faisais des cours de comédie et mon film, celui que j'ai écrit, j'arrivais pas à le monter, je voyais que c'était compliqué. Celui qui avait été écrit par les producteurs, on n'était pas arrivé. Les records, j'arrivais pas à avoir d'autres autorisations. J'arrivais près de la quarantaine, je m'étais séparé de mon ex. Bref, j'avais un certain nombre d'éléments qui m'ont ou un tournant dans ma vie où tout s'est écroulé, quoi. Vraiment, tout s'est écroulé. Les uns derrière les autres. Et donc, je me suis retrouvé comme ça sur ce lit d'hôpital à me dire « Ok, t'es un peu, tu repars de zéro, il faut que tu redémarres sur de bonnes bases. Et ben, je vais écrire une sorte de formule magique pour un nouveau projet que je vais lancer et un nouveau projet d'entreprise, ma nouvelle tour Eiffel en quelque sorte. Je vais écrire une formule magique. » Et j'ai écrit comme ça 8 points. Et je me suis dit « Mon prochain business va être dans ces 8 points. »
Et du coup, ces 8 points, c'est...
Alors,
qu'est-ce que tu mets dedans ?
Le premier point, c'est justement la souffrance que j'avais sur le monde des sports extrêmes. C'est-à-dire, quand je dis la souffrance, c'est-à-dire que j'étais dans un petit monde qui n'avait pas beaucoup de potentiel. Donc, il fallait que je sois 10 fois plus proactif pour sortir mon épingle du jeu. Donc, je me suis dit, premier point, je ne vais pas faire 2 fois la même erreur.
Tu veux le vendre dans le dos cette fois-ci ?
J'ai envie d'avoir une industrie où il y a un potentiel illimité. Je voyais bien avec les footballeurs, le 1000e footballeur au monde gagnait mieux sa vie que moi qui étais le premier en roller. Eux, ils avaient tout sur un plateau, les avocats, les médias, etc. Donc, je me suis dit, je vais choisir une industrie où il y a un potentiel illimité. Et là, je me suis dit... Télécom, c'est difficile de trouver une industrie qui a plus de potentiel.
Tu vas y rentrer, mais quoi
voilà,
potentiel
je me dis, tous les milliardaires sont dans les télécoms. Je ne serais peut-être pas le premier au monde dans les télécoms, mais même en étant le 100e mondial, je serais en tout cas très fortuné et j'aurais un business qui a de la croissance. Le deuxième point, je me suis dit, il faut arriver à ubériser cette industrie. quand je dis ubériser cette industrie, c'est-à-dire que on voit bien Uber, c'est un peu le mot que tout le monde utilise, mais Uber est le plus grand réseau de taxis au monde, mais ils ne sont pas propriétaires, eux, des taxis. Airbnb est le plus grand réseau d'hôtels au monde, mais ils ne sont pas propriétaires des murs. Donc je me suis dit, est-ce que je peux créer le plus grand opérateur mobile au monde sans être propriétaire moi-même des antennes et finalement utiliser les antennes des autres opérateurs. Troisième point, je me suis dit, on est dans un monde où l'expérience utilisateur est roi. C'est-à-dire que si tu inventes quelque chose qui est juste plus simple, les gens vont l'adopter. Il n'y a pas de cassement de tête à avoir là-dessus. Surtout dans le monde, les gens ont de moins en moins de temps. Donc si tu proposes un produit qui est bien et qui leur facilite la vie, ils vont le prendre, tu n'as même pas besoin de faire de pub. Je vois sur le cas d'Uber, tu as la petite bouteille d'eau qui va bien, tu as la carte bleue qui est déjà rentrée, tu es sûr d'avoir le bon prix. Quand tu arrives dans un pays étranger, tu n'as pas...
C'est confortable.
C'est confortable. Voilà. Le quatrième point, je me suis dit, il faut que je sois propriétaire de ma marque. Parce que je voyais quand j'avais par exemple la licence Tony Parker ou Matt Pokora dans mes gammes de papeterie, parce que j'avais acheté l'image de Tony Parker et Matt Pokora pour les gammes de papeterie après avoir vendu ma propre image.
Tu dépends du coup de ces contrats aussi.
Et tu es dépendant de leur image. Et je me rappelle quand j'avais perdu le contrat Tony Parker, j'avais eu un trou dans mon chiffre d'affaires de 30%. Donc je me suis dit, je ne peux pas monter un business qui est viable si je ne suis pas propriétaire de ma marque. Parce que ça veut dire que je pourrais perdre la marque, si j'utilise la marque de quelqu'un d'autre, je peux la perdre à tout moment et c'est fini. Le cinquième point, je me suis dit en plus, cette marque doit être vendable dans tous les pays au même niveau. Je prenais toujours l'exemple de Tony Parker. Tony Parker se vendait bien en France parce qu'il était connu, aux États-Unis également parce qu'il est connu, mais au Japon, pas du tout, par exemple. Donc il fallait trouver le Tony Parker japonais.
Ce qui est compliqué.
Ce qui est compliqué. Donc je me suis dit, non seulement il faut que je sois propriétaire de ma marque, mais que je vende le même produit dans tous les pays et voilà, que ça soit à la Apple en quelque sorte, un produit simplifié partout dans le monde.
Déjà l'ambition internationale sur le...
Voilà, tout de suite l'international. Vu que j'avais beaucoup voyagé, c'est sûrement mon côté compétiteur. J'essaie de voir les choses en grand et tout de suite mondial parce que...
Oui, mais c'est bien parce que souvent quand on est en France, c'est plutôt l'inverse. On a un marché suffisamment gros, donc on a tendance à penser France.
À penser France, voilà. Moi, de toute façon, toujours ce que j'ai fait, c'est penser mondial. Et dans mon sport ou quoi que ce soit, je voulais être champion du monde. Donc là, c'était, voilà, je pensais à ça. Donc le cinquième point, c'est celui-là. Le sixième point, c'est que je me suis dit, il faut que je choisisse une industrie où il y a une distribution... tout de suite mondial et facile parce que toujours les gammes de papeterie m'ont beaucoup appris. Ces gammes de papeterie m'ont appris que par exemple c'était tellement dur d'être référencé à Carrefour en France. Si je voulais être vendu aux États-Unis, il fallait être référencé dans le Carrefour américain qui était Walmart, etc., etc. Donc avant de, même si tu as le meilleur produit du monde,
il y a une bataille sur chaque marché,
une bataille de référencement. Le nerf de la guerre, c'est celui qui a la distribution. Et donc, je me suis dit, si je choisis le monde des applications, ok, tu payes cher les 30% à Apple et Google, mais tout de suite, ton produit, il peut être vendable partout dans le monde. Dans la même seconde, il est vendable au Japon, en Australie, en Afrique, etc. etc. Donc, une distribution tout de suite mondiale. Le septième point, je me suis dit, il faut que ce soit un produit que je peux vendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans augmenter les équipes. C'est-à-dire un produit, comme on dit, scalable. Je vois par exemple, je le voyais par exemple sur mon magasin de roller, je vendais, ou par exemple si je prends l'exemple d'un Starbucks. Un Starbucks, ils vendent je ne sais pas combien de cafés dans la journée dans le Starbucks d'Opéra, mais ils ont une limite, ils ne vont jamais vendre, je ne sais pas, 100 000 Starbucks dans la journée.
100 000 cafés, ouais, ouais.
100 000 cafés, je veux dire, au Starbucks d'Opéra. En plus, ils sont limités par les jours et les heures d'ouverture. Ils ne peuvent vendre que du lundi au vendredi.
La capacité.
Voilà, de 9h à 19h, etc. Le week-end, à 3h du matin, tu ne peux pas acheter un Starbucks. Donc, ils sont limités à ça. Et donc, leur seul moyen pour eux de faire grandir la société, c'est finalement ouvrir plus de Starbucks, mais ce qui fait augmenter énormément les coûts, puisque ça veut dire... nouvelle infrastructure, je veux dire nouveau lieu, des salariés supplémentaires, etc. À l'inverse, si on prend l'exemple par exemple de Spotify, ils ont le même nombre de salariés et à 3h du matin dimanche, ils peuvent vendre 10 000 abonnements de plus. Ils peuvent le vendre n'importe quand, sans limitation de territoire, etc. Donc je voyais bien qu'il fallait que je vende un produit qui n'est pas limité, bien sûr en territoire, mais pas limité en nombre, et en jour et heure d'ouverture
H24
et qui a pas de répercussion sur mon nombre de salariés. Un opérateur télécom, s'il vend 1 million d'abonnements en plus, ça ne lui change rien sur ses salaires. Il a juste vendu 1 million d'abonnements en plus. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Et le 8e point, qui est le dernier, qui était le plus simple à dire, mais le plus dur à trouver, c'est qu'il faut inventer quelque chose qui n'existe pas. Et donc, en fait, quand j'ai mis ces 8 points, au début, je ne les ai pas formulés, je ne les ai pas marqués aussi clairement que je les explique maintenant, mais globalement, c'était le bon sens que j'avais de me dire, il faut que ce soit ci, il faut que ce soit ça. Maintenant, j'arrive
à l'expliquer plus facilement.
Mais donc, avec ces 8 points, je savais que si je construisais mon idée autour de ces 8 points, je ne pouvais pas me gourer, en gros, sur l'idée. J'étais sur quelque chose qui était sur des bonnes bases. Après, voilà, il faut inventer quelque chose qui n'existe pas. Et l'idée que j'ai inventée, j'ai appelé ça le cloud number. Donc, qu'est-ce que c'est le cloud number ? C'est que j'ai parti du principe qu'on est dans un monde où tout est dans le cloud. Nos emails, nos films avec Netflix, nos musiques avec Spotify, nos dossiers avec Dropbox. Je veux dire, tout est dans le cloud. Pourtant, notre 06, notre numéro de mobile, lui, n'est pas dans le cloud, il est coincé sur une carte SIM physique. Et je me suis dit, c'est quand même très étrange. On a des téléphones qui sont de vrais ordinateurs, voilà. Tout est dans le cloud, mais notre 06, alors lui, non. Lui, il est coincé dans cette petite carte SIM en plastique.
Une double carte SIM, éventuellement, mais c'est le mieux qu'on
puisse avoir. Oui, mais même si elle a une double carte SIM, c'est toujours coincé dans cette carte SIM. C'est-à-dire que, je prends l'exemple, on est au Mexique et je perds mon téléphone en soirée, eh ben, j'ai plus mon numéro. Je suis obligé d'attendre de revenir en France physiquement, récupérer une carte SIM SFR ou Orange ou Bouygues dans un magasin pour récupérer mon numéro. Ce qui ne fait pas de sens parce que je perds mon téléphone au Mexique, je peux quand même lire les mails sur le téléphone d'un pote ou sur une tablette ou un ordinateur. Pourquoi notre 06 est coincé ? Donc, je me disais, évidemment, il doit y avoir une raison. Soit légal, soit technique, soit c'est simplement que les opérateurs ne veulent pas, et voilà. Et je me suis dit, si techniquement et légalement c'est possible de mettre les numéros dans le cloud, c'est la révolution, la vague que personne pourra arrêter, parce que personne ne veut avoir un numéro coincé dans sa carte SIM si tu peux avoir les flexibilités du cloud. Et en plus, donc quand je dis les flexibilités du cloud, c'est-à-dire que quand j'ai plus de batterie, bah je pourrais récupérer mon 06, mes contacts, mes SMS sur le téléphone de n'importe qui. Je pourrais du coup avoir un deuxième numéro. Je pourrais avoir même un numéro américain, etc. Donc j'ai commencé à rêver tout ça sur mon lit d'hôpital. Et en parlant un peu autour de moi, tous les gens à qui j'en parlais me disaient « Mais ça serait extraordinaire, ça serait génial. » Et donc l'idée germait en moi et je me disais bien « Il faut que je fasse quelque chose parce que à l'unanimité, tout le monde me disait que c'était une bonne idée. » Et donc, c'était très dur de trouver le nom du job du mec qui sait. Parce que quand sur ton lit d'hôpital, tu imagines ça, tu ne sais pas du tout à qui demander.
Stressé, ouais.
Parce que tu ne sais pas si c'est faisable ou pas faisable, quoi. Et donc, il m'a fallu des mois pour comprendre que c'est ce qu'on appelle un chef architecte télécom. C'est les mecs qui ont ce job, en fait, qui savent légalement et techniquement si c'est possible à faire. Donc j'ai eu la chance de trouver un chef architecte chez Orange qui venait de quitter Orange, que j'ai pu embaucher à la journée. Alors il me coûtait cher à la journée, mais en 2-3 jours il a pu me dire si mon idée était faisable. Et donc il m'a dit, écoute, voilà, c'est faisable, mais il y a des contraintes. Il n'y a qu'un opérateur télécom réel qui peut le faire. Donc,
légalement du coup ?
Légalement. Sinon, c'est interdit. Et c'est pour ça que ça n'avait jamais existé, etc.
Et pourquoi, du coup, les opérateurs existants, ils ont intérêt financier ?
Parce que eux, en fait, le fait de bloquer la carte SIM, le numéro dans la carte SIM...
Ça bloque le client.
Ça bloque le client. Parce que, je donne un exemple, le client va à l'étranger, en Ukraine, où le roaming est extrêmement cher, ça va leur coûter 1 000 euros la semaine de se connecter sur Internet. Si le numéro était dans le cloud, le mec, il aurait pu prendre une carte SIM ukrainienne et garder son numéro localement, comme les mails. Aujourd'hui, j'arrive en Ukraine, je mets une carte SIM ukrainienne dans mon téléphone, et ben, je peux naviguer sur Internet et lire mes mails sans surcoût, toujours avec mon adresse email. Sauf que puisque le numéro est coincé dans la SIM, si j'enlève la carte SIM et que je mets une carte SIM ukrainienne, j'ai perdu mon numéro français. Voilà. Donc c'était une façon pour que les opérateurs de tenir un peu vulgairement par les couilles les clients.
Il y a d'autres sujets aussi où ils font. Enfin, j'ai l'impression, moi, je suis pas très fan des opérateurs télécoms généralement qui te font galérer à te désabonner, des choses comme ça.
Ah oui, bien sûr, il y a tout ça.
Ils veulent nous garder, quoi.
Ils veulent nous garder. Et donc, et d'une façon globale, les opérateurs ne sont pas très forts sur l'innovation. Je veux dire, c'est quand même délirant que ce soit pas eux qui aient créé WhatsApp ou quoi que ce soit, ou Skype ou Viber, que ce soit des gens de l'extérieur qui aient créé ça, quoi. Ça, c'est vraiment... Bon, bref.
Après, historiquement, c'est souvent quand même, ça vient souvent de petites boîtes qui deviennent des startups, qui deviennent des mastodontes après.
Et bien sûr. Et
les grandes industries se réadaptent après.
Mais ces grandes industries avaient vraiment tout, la technique, les clients, le savoir-faire pour le faire eux avant. Et quand ils ont vu ces petites startups arriver sur ce type de marché, ils auraient dû le faire à leur place et le faire bien, quoi. Mais bon, ils l'ont pas fait.
C'est vraiment comme ça.
C'est comme ça. Et donc, le truc, c'est que soit j'allais voir les gros opérateurs comme Orange, Bouygues, SFR, et là je partais pour un tour de grand 8 parce que je serais trop dépendant d'eux, et s'ils veulent pas le faire, bah ils le font pas. J'aurais pu attendre des années et en plus ils auraient pu me piquer l'idée, etc. Soit l'ingénieur télécom me dit que je peux le créer moi-même en créant un opérateur mobile mondial. Alors là je suis sur le cul, je ne savais pas qu'il était possible de le faire pour une personne physique comme moi. Je pensais qu'un opérateur, ça coûte des milliards, etc. Et que moi, une personne lambda ne peut pas créer un opérateur. Et il me dit non, parce qu'il y a différentes licences télécom. Il y a des licences, ce qu'on appelle MVNO et MNO. Et des licences MVNO n'ont pas besoin d'acheter le réseau, donc ils le sous-louent.
À l'inverse de Free, qui avait pris le réseau Orange, par exemple.
Ça, c'est différent, parce que Free, ils avaient une licence MNO. Donc, ils avaient l'obligation de monter leur propre réseau. Mais en attendant d'avoir leur réseau, ils avaient le droit d'utiliser les réseaux d'Orange à des coûts un peu plus bas, etc.
Du coup, ta licence est moins contraignante, tu as besoin de créer le réseau. Donc,
j'ai pas besoin de créer de réseau.
Après, c'est très cher, c'est ça qui coûte très cher.
Voilà, non seulement la licence MNO coûte des centaines de millions d'euros, et en plus, il faut créer le réseau, etc. Bon, bref. Et donc, mais dans les deux cas, le troisième cas, c'est que je démarre en sous-louant en quelque sorte le réseau et la licence à un petit opérateur technique avant de totalement construire le mien. Mais donc dans tous les cas, soit je faisais appel au gros et là j'étais en cuit en fait, soit je le montais moi-même, et pour le monter moi-même, il fallait que j'aie des millions d'euros. Parce que quand même si ça coûte pas si cher que ça, ça coûte quand même cher.
Bon, t'as eu beaucoup de... Même avant de commercialiser, donc t'as eu pas mal d'années de R&D, de...
Exactement. Donc en fait, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais cet ingénieur qui me disait que c'était possible. Donc j'ai contacté une société technique qui me disait que eux pouvaient me fabriquer la solution technique et louer en quelque sorte leur licence antenne, etc. au démarrage. Mais c'était quand même un développement de 150 000 euros à leur payer, plus 10 à 20 000 euros par mois. En tout cas, j'avais des forts coûts. Donc, j'avais beaucoup d'argent à sortir. Mais en gros, j'avais cet ingénieur qui me disait que c'était possible et cette société qui pouvait me fabriquer à condition que je paye. Et donc là, j'ai commencé à rencontrer différents fonds d'investissement en leur disant, bah voilà mon idée, etc. Et globalement, ces fonds m'ont un peu rionné en me disant, bon, bah, t'es bien gentil, mais t'es d'une façon très courtoise. Ils m'ont reçu parce qu'ils étaient curieux de voir ce que ce sportif en roller avait comme idée. Mais ils imaginaient peut-être une application autour du roller. Là où des sports extrêmes. Là, j'arrive en sportif en roller et je leur dis, bah non, j'ai une application dans les télécoms qui n'a rien à voir, zéro pointé avec mon univers et je suis tout seul, j'ai pas de cofondeur, j'ai pas d'argent, j'y connais rien, je suis pas ingénieur et donnez-moi des millions.
Et tu penses que ça a joué Est-ce que ça peut desservir justement ta notoriété dans le sport?
Alors là, ça me desservait clairement parce que si je serais arrivé avec des petites lunettes et des années d'études en tant qu'ingénieur télécom, automatiquement j'aurais été pris beaucoup plus au sérieux. Là, ils m'ont vu arriver comme un rêveur sympa, mais un rêveur. Voilà, et je les comprends, je peux pas du tout leur vouloir.
C'est toujours dur de lever des fonds avant d'avoir... Enfin, c'est ça le problème dans ton truc, c'est qu'on doit déjà faire le produit. Enfin, toi, c'était assez complexe, tu peux pas commencer avec 1000 balles.
Et voilà, moi, il fallait des années de développement avant que le produit commence à être vraiment vendable et stable. Surtout que je suis perfectionniste, donc j'ai envie de faire un bon produit. C'est-à-dire, j'ai pas envie de faire un truc un peu bâclé, j'ai envie vraiment d'avoir un produit qui révolutionne les télécoms. Et donc... Bref, ça n'a pas marché. Et finalement, la première personne qui a cru en mon projet et à qui j'ai présenté parce que j'avais la jambe cassée, c'est mon chirurgien. Vu que je sortais de l'opération, je parlais régulièrement à mon chirurgien et évidemment, je lui ai partagé cette nouvelle idée. Et il a trouvé l'idée géniale et il a décidé d'investir lui et toute sa famille, sa sœur, son beau-frère, etc. Et j'ai convaincu comme ça, en un mois, 30 personnes de mon entourage, mon avocat, mon comptable, etc. Et ils ont aidé sportifs. Et ces 30 personnes ont mis 1 million d'euros. Et donc j'ai récupéré 1 million d'euros en un mois. Et je suis rentré dans une course folle pendant des années. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit 1 million d'euros, je suis large. En réalité, il est parti en un an. Et tous les ans, je me rendais compte qu'il fallait des années supplémentaires et des millions d'euros supplémentaires pour arriver à un produit d'une stabilité correcte.
Donc ça t'a pris combien de temps pour arriver
donc,
à la première
finalement,
version de
ton produit ? Donc il m'a fallu 5 ans, près de 5 ans et 15 millions d'investissements au prix estonien.
C'est-à-dire les 15 millions, tu les as dépensés, tu veux dire, en Estonie,
voilà. En fait,
qui sont peut-être moins chers quand même.
Qui sont beaucoup moins chers. Les 15 millions en Estonie m'auraient sûrement coûté 20-25 en France et 40 aux États-Unis, quoi, pour arriver au même résultat technique. Puisque dès que j'ai levé mon premier million, même si la société est 100% française, je ne suis pas du tout parti en Estonie pour exiler l'impôt, rien de tout ça. C'est simplement que je me suis dit, il faut que j'arrive à fabriquer plus avec moins. Et Skype, c'est une société estonienne. Ils ont encore 500 ingénieurs là-bas. J'avais un pote d'enfance qui vivait là-bas. Et je suis parti là-bas et j'ai pris des ingénieurs de Skype, etc. Et surtout, j'ai fabriqué plus avec moins. Voilà. Et donc, mais ça a été infernal parce que aujourd'hui donc on a levé pas mal d'argent, mais les 4 premières années, les fonds d'investissement ne voulaient pas investir chez moi.
C'était que du particulier.
Et donc j'ai réussi à convaincre comme ça, un par un, tous les gens, tout mon entourage, et j'ai convaincu 130 personnes qui m'ont donné 10 millions. Et c'est ça qui m'a permis de tenir pendant des années, mais j'étais au bord du gouffre tous les mois parce que j'avais jamais un mois d'avance quasiment. Donc je démarrais le mois et j'avais 23 jours pour trouver 250 000 euros.
En fait, ton travail, c'était de bien faire gaffe que les développeurs travaillaient bien, mais que surtout, toi, tu trouves du cash.
Exactement. En fait, je leur disais pas qu'à la fin de chaque mois, j'étais au bord du gouffre et que peut-être le mois d'après, ils n'allaient pas avoir leur salaire. J'avais 45 personnes au bureau.
C'était quasi que des ingénieurs, du coup, parce que
quasi
t'avais
des
pas
ingénieurs,
de marketing à ce
exactement,
moment-là.
Pas de marketing. Et surtout, ça ne servait à rien de faire du marketing sur un produit qui ne marchait pas bien. Il fallait que le produit marche. Donc, c'était le serpent qui se mordait la queue, infernal.
Et là, tu es sorti de cette phase de R&D, tu as pu faire un tour institutionnel.
Exactement. Donc, on a fait une augmentation de capital de 10 millions avec des gros fonds, dont ID Invest et Benoît Grossman qui est à bord et carrément à notre board. One Rack Time et Lean Square Meuse Invest et Briga Capital qui a fait la due diligence, qui a vraiment fait du super boulot avec
beaucoup de fonds français quand même.
Voilà, que des fonds français, à part les deux fonds belges. Mais donc, ce qui était marrant, c'est que les mêmes fonds, certains d'entre eux, en tout cas, m'ont vu 4 ans avant pitcher l'idée à New York et ils se sont dit, son idée est super, mais il n'y arrivera jamais. Parce que c'était trop innovant dans le monde des télécoms. Le régulateur n'était pas hors régulation, mais mon idée n'était pas dans la régulation. Donc, il y a eu un vrai bras de fer avec le régulateur au début, etc. Un aspect de confiance à construire ensemble, etc. Donc, tous ces fonds se sont dit, c'est super, mais il n'y arrivera jamais. En plus, il est tout seul, il ne connaît rien, il n'a pas d'argent, etc. Mais donc, au fur et à mesure des années, voir que finalement, le train avance. Et quand je les voyais souvent, hein, et ils ne comprenaient pas comment je continuais à arriver à avancer, à lever des fonds et à améliorer le produit, etc. Et au bout d'un certain moment, la curiosité, ils se disaient, attends, ça quand même a l'air incroyable son truc, parce qu'il continue à avancer, son produit commence à marcher de mieux en mieux, il commence à avoir des KPI, il dit qu'il a des brevets, etc. On va vraiment commencer à regarder sous le capot si ça marche et si c'est bien.
C'est intéressant ce que tu dis, tu expliques que tu n'as pas arrêté de voir des investisseurs pendant ces 4 années de R&D.
Bien sûr.
Tu as continué à créer la relation, à montrer ton évolution dans le temps.
Moi, j'étais dans une optique en leur disant, moi, je suis un fonceur et je suis au devant d'un train qui avance. Si vous voulez rentrer dedans, vous pouvez, mais sachez que quoi qu'il arrive, le train va avancer. Et si c'est une situation qui finalement, au début, eux me prenaient un peu pour un charlatan, mais au fur et à mesure des années où je prenais de l'expérience et le train continuait à avancer, ils se disaient quand même, bah, finalement, il a peut-être pas tort, finalement, il a peut-être les capacités pour gérer sa boîte, pour construire la technologie, et peut-être on va louper un train intéressant.
Bien sûr. Et donc là, tu rentres dans une phase complètement différente. Depuis quelques mois, j'imagine, vous avez commencé à commercialiser.
Voilà. Alors, ce qui a été dur quand même, c'est que avant que les fonds rentrent, c'est que j'avais mes 130 investisseurs privés. Donc, il a fallu que je structure mon groupe fortement parce que les fonds d'investissement ne voulaient pas avoir 130 personnes à gérer. Ce qui
c'est
est logique.
Même pour toi d'ailleurs.
Et pour moi, il fallait faire signer tout le monde, l'enfer, etc. Donc, j'ai réussi à fédérer mes 130 dans une holding familiale qui m'ont fait confiance. Et comme ça, en quelque sorte, j'ai récupéré les 100% des droits de vote de ces premiers 10 millions puisque j'ai représenté mes 130 amis qui ont mis de l'argent au début face au fond. Donc même le fait d'avoir fédéré tout le monde, on a équilibré un peu plus le rapport de force parce que j'arrivais quasiment avec un fonds d'investissement familial avec 130 personnes derrière moi face à des fonds traditionnels, et donc je représentais 10 millions d'euros d'investissement face aux fonds d'investissement. Donc ça, c'était plus agréable, et même pour les fonds, c'était mieux, parce qu'ils avaient une seule personne sur qui taper en cas de problème, quoi. Oui. Voilà, et après, enfin, le fait que les fonds rentrent, j'ai pu arrêter de penser à 23 jours, parce qu'avant, je ne pouvais penser que 23 jours devant moi. Il fallait trouver 250 000 euros au bout de 23 jours.
Parce que les 10 millions, tu les avais au compte-gouttes, au final.
Au compte-gouttes. Mmh. Et donc, je ne pouvais jamais faire penser à du marketing ou à des trucs plus loin, parce que c'était de la survie tous les mois. Une fois que les fonds sont rentrés, j'ai pu enfin me poser,
bouffer d'air,
frère. Penser à de la stratégie un peu plus à long terme, investir du marketing un peu plus à long terme, etc. etc. Donc ça, c'était hyper agréable.
Et là, du coup, c'est quoi les tu projettes comment l'année qui arrive là?
Alors, l'année qui arrive, c'est-à-dire que là, on est dans un truc où la technologie, elle est vraiment stable maintenant. Il y a toujours un petit bug à droite, à gauche, mais globalement, c'est stable. On se rend compte que, vu que j'ai construit cet opérateur mobile mondial avec des licences dans plus de 20 pays, etc., je peux arriver à révolutionner les usages verticalement dans plein de domaines différents dans le monde des télécoms. Donc, on verra, Onno va lancer plein de nouveaux produits cette année, relié à notre business ou pas. Donc ça va être hyper intéressant. On va essayer de vraiment révolutionner tous les usages dans le monde des télécoms. Et en tout cas, sur l'usage du double numéro, donc l'application Onoff qui permet aujourd'hui d'avoir un deuxième numéro pro, perso, un numéro rencontre, un numéro pour le bon coin, etc. etc. Et ben, cette application, on a besoin de la faire connaître auprès de tous les Français. Parce qu'aujourd'hui, les Français ne savent pas qu'il existe une application qui permet en un clic d'avoir un deuxième numéro. Donc, on a fini la phase de stabilité. Maintenant, on est dans la phase de faire connaître le produit. Et donc là, c'est de la pub, du marketing dans tous les sens.
Je crois avoir vu une pub dans le métro. Il y a pas
voilà, j'ai fait des pubs dans le métro et je vais en continuer beaucoup d'autres. Là, je vais enclencher plein de pubs.
Et toi, du coup, en tant que fondateur, dirigeant de cette boîte-là, tu rentres aussi dans un nouveau métier parce que du coup, là, tu dois recruter des gens. Tu as travaillé avec des ingénieurs pendant 4 ans.
Bien sûr,
mais là,
je dois être commercial, marketing. Bien sûr, c'est très étrange d'être de l'autre côté, d'être du côté client quand je rencontre des agences, des annonceurs, etc., des chaînes de télé. Là, maintenant, je suis le client qui va acheter à TF1 des pubs. Donc c'est tellement bizarre. Moi qui ai travaillé toutes ces années avec des TF1, etc., où j'étais de l'autre côté de la barrière, c'était marrant. C'est un nouveau métier, mais évidemment j'essaye de l'apprendre et d'avoir toujours le bon sens qui prime et faire le moins d'erreurs possible. Et le fait de faire des pitchs toute la journée sur le produit, je comprends, j'ai une bonne compréhension de ce qui bloque et ce qui ne bloque pas sur les personnes. Et c'est pour ça que je vois qu'on a un vrai, pour l'instant, problème de notoriété. Les gens doivent comprendre, savoir que ça existe et comprendre leur intérêt, pourquoi un deuxième numéro peut les aider, un numéro rencontre, un numéro le bon coin, un numéro pro, un numéro international, etc. Donc, mais oui, c'est un nouveau métier et je suis à fond dessus en ce moment, hein.
Et t'as pas d'associé, tu disais intéressé.
Non, alors, je suis le seul fondateur, ce qui a des avantages, mais pendant longtemps, beaucoup d'inconvénients, puisque c'était moi qui avais tous les bons et mauvais rôles, et dont la pression infernale de devoir presque tout perdre du jour au lendemain. Donc ça, c'était dur. Mais n'empêche, maintenant j'ai pris des bras droits qui sont chacun dans un domaine, et depuis qu'ils sont là, heureusement, je ne mets plus le nez dans ce domaine. J'en ai un qui fait la régulation, depuis qu'il est là, je ne mets plus le nez dans la régulation. J'en ai un qui s'occupe des finances, et maintenant même ces bras droits commencent à faire beaucoup plus que leur domaine. Donc moi, de plus en plus dans la société, je vais garder tout ce qui est expérience utilisateur et innovation du produit, puisque c'est là, vu que je suis un créatif, j'ai vraiment de l'innovation là-dessus. Je vais garder tout ce qui est communication. En tout cas, il n'y aura pas de communication, évidemment, qui sera fait sans mon aval. Image publique pour la vision, etc., la vision à long terme, et la relation avec tous les ingénieurs au bureau à Tallinn, puisque c'est ce que je fais. Aujourd'hui, je suis au bureau à Tallinn avec les ingénieurs pour les manager, quoi. Donc, de plus en plus, je vais aller là-dessus et avoir des gens qui vont prendre la partie commerciale, la partie marketing. Il faudra que, même si c'est moi qui décide à la fin, j'aurai un directeur marketing, etc.
Et là, ça me vient la question, justement, on parlait par rapport à l'image qui pouvait être, pas négative, mais mal vue des fois par des investisseurs qui ne comprenaient pas forcément quand tu sortais du roller, la transition d'entrepreneuriat, alors qu'au final, c'est légitime, comme plein de gens.
Là, c'est la... ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quand le train il est en marche et qu'il avance, et que la meilleure façon de convaincre, c'est avec les actes. C'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on veut, c'est les actes qui font la différence. Et donc, sur tous ces investisseurs, etc., ils me voient agir et ils me voient challenger et me battre, etc. Donc là, il n'y en a plus aucun qui a un doute sur mon côté entrepreneur. C'était même drôle, le président de l'ARCEP en France, qui est le régulateur télécom en France. Donc je négocie avec l'ARCEP pendant un an et demi, etc. Au bout d'un an et demi, on est à Barcelone sur un événement, et c'est Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP, et il me dit, dis-moi, il y a un truc qui est... Mes équipes m'ont dit que tu étais sportif avant. Alors, j'ai dit, mais tu savais pas? J'ai dit, bien sûr, mais j'étais sportif. Il me dit, non, mais pour moi, t'étais Ty Chris, le fondateur de On Off. Voilà, donc ça, c'était...
Ça fait plaisir.
Ça fait plaisir, voilà, parce que je t'ai vu vraiment là-dessus. Et même aujourd'hui, quand on tape sur mon nom sur Internet, il y a beaucoup, beaucoup plus d'articles en tant qu'entrepreneur qu'en tant que sportif. Donc
t'as un travail aussi sur le SEO personnel, on va dire, enfin le référencement.
Je l'ai pas fait, non, mais ça s'est fait naturellement. Mais
avec
que
le temps, oui, forcément.
Le temps, 5 ans qu'on fait que ça, et évidemment, tant que c'est fait honnêtement et à 100%, les actes font les choses, quoi.
C'est quand même dingue de voir, je voyais des interviews à la télévision, alors c'est peut-être maintenant il y a plusieurs années, certaines d'entre elles, mais on voyait quand même les journalistes qui... Enfin, c'est pas qu'ils prenaient pas au sérieux, mais tu vois, on sentait qu'il y avait quand même cette... ça se sentait dans les interviews, quoi. Ah ouais, tu viens faire ton truc.
Bien sûr. Et... Je me rappelle, il y avait un journaliste, je sais plus de quel journal, mais je retrouverai.
Comme quoi, on devrait rester toute sa vie dans la même discipline.
Enfin, c'est ça. Il y a un journaliste qui avait écrit sur Twitter. Je lui en ai voulu... parce que ça m'a touché dans mon orgueil, c'est-à-dire les années de travail avec la sueur au front, c'était tellement méchant et tout ça. En fait, l'ARCEP, donc le régulateur télécom, fêtait ses 20 ans, et donc ils ont leur célébration annuelle, et c'est la grande soirée où il y a tous les grands patrons des télécoms, Xavier Niel, Drahi, etc., qui viennent, le patron d'Orange, Stéphane Richard et tout. Et du coup, vu que c'était l'anniversaire des 20 ans, ils avaient la photo de famille avec tous les plus grands patrons télécom qui étaient là. Il y avait une vingtaine de patrons, dont Xavier Niel, Stéphane Richard, Drahi, etc. Et le président de l'ARCEP avait spécialement insisté pour que je vienne, pour que je fasse partie de cette photo. Parce que vu que je suis un des seuls à vraiment innover dans les télécoms en France, en tout cas sans me jeter des fleurs, c'est une réalité. Aujourd'hui, on a inventé des brevets, on apporte beaucoup, beaucoup d'innovation dans les télécoms, même si je suis insignifiant par rapport aux autres. Ma société, elle est minuscule par rapport à celle des autres. Mais n'empêche, en termes symboliques d'innovation, on apporte beaucoup d'innovation. Et donc... Soriano avait spécialement insisté, son assistante il m'avait envoyé un mail, il m'avait même envoyé un SMS pour me dire ne sois pas en retard parce que la photo elle est à 20h pile, il faut être là pour la photo, etc. Son assistante avait busté, voilà, donc j'étais au courant de cette photo que je devais faire avec les autres patrons. Et donc le moment de la photo officielle, je me retrouve aux côtés de Soriano, et j'étais extrêmement fier parce que ça faisait des années que je bataillais comme un diable et que je venais d'en bas, et me retrouver dans une photo officielle aux côtés de Patrick Drahi, Stéphane Richard, Xavier Niel et les autres patrons de grands opérateurs français qui sont des légendes dans leur domaine aux côtés du régulateur, et avoir ma place officiellement là, c'était un honneur, quoi. Et après cette photo, tu as ce journaliste qui écrit « Ah ben, Taïg, qu'est-ce qu'il est malin, il arrive à se faufiler sur une photo en douce, quoi. »
Okay. Voilà.
Ça m'avait blessé parce que j'avais travaillé pendant des années, et c'était vraiment méchant de dire simplement, c'était vraiment, ce petit rollerman n'a pas sa place là. S'il est là, c'est que il s'est faufilé en douce parce qu'il a pas sa place, quoi. Tu vois.
Bon, bah, je pense que de toute façon chaque année va se réduire, ce genre
évidemment.
Tu dois déjà le sentir. On arrive aux questions de fin là. Ça fait un petit moment qu'on discute. Ce que t'as... Je vais te demander, ouais, tes journées, ça ressemble à quoi, ou tes semaines ensuite?
Alors, mes journées, moi, j'arrive à m'endormir que quand je suis à bord de l'épuisement. C'est-à-dire que tant que j'ai eu la moindre énergie, je travaille. Donc, je suis sur l'ordinateur jusqu'à 4h, 5h du matin, tous les soirs, à essayer de terminer les derniers dossiers, les derniers mails, les derniers trucs, les trucs de l'innovation, etc. Et je me réveille le matin, j'essaye de dormir le maximum jusqu'à la première réunion qui démarre. Alors quand je suis au bureau, j'ai pas le choix parce que je dois montrer l'exemple. Donc je suis obligé d'arriver au bureau tôt le matin, évidemment.
C'est pour... que tu dors 4-5 heures par nuit ?
Voilà, je dors vraiment pas beaucoup pendant la semaine et je récupère le week-end. Donc quand c'est samedi ou dimanche, là je fais une nuit de 12 heures pour récupérer la fatigue de la semaine. Donc c'est pas le
rythme de vie d'un sportif de haut niveau.
Ah non, non. À la fois, c'est un sacré avantage dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que dans le sport, tu peux pas. Surtout dans un sport à risque comme je faisais, si je dormais pas mes 8 heures, je pouvais me casser quelque chose très facilement. Alors que là, même quand j'ai dormi très peu, je peux quand même assurer businessment parlant. Donc, et ma façon de voir, ce que je fais finalement dans la journée, j'essaye simplement d'abattre tâche par tâche le maximum de choses. En fait, je n'essaye pas de penser les problèmes à plus d'une journée. Moi, quand je me lève le matin, je me lève uniquement avec l'étoile au loin que j'essaye de le suivre, c'est-à-dire réaliser de grandes choses, créer un opérateur mobile mondial, sauter de la tour Eiffel ou créer un rêve d'un film, etc. Donc ça me permet d'avancer et voir au loin le truc. Et au-delà de ça, j'essaye uniquement au jour le jour d'abattre le maximum de problèmes. Et donc, ce qui est important, c'est que je finisse ma journée et que j'ai rempli le maximum de tâches. Et c'est l'accumulation de milliers de petites tâches qui font en fait que le train avance. C'est vraiment cette histoire de train. Il faut que chaque jour, il y ait un petit peu d'avancement. Et je ne me soucie pas des autres, des compétiteurs, etc. C'est-à-dire que je combats finalement contre moi-même et contre l'envie d'aller au bout du rêve, c'est-à-dire créer quelque chose de bien avec ma vision, c'est-à-dire quelque chose qui marche partout, qui est top, qui est innovant, qui est voilà, c'est ça.
Ça veut dire beaucoup beaucoup d'heures de taf tous les jours.
Ah oui, donc, ah oui, je ne vis que pour ça.
Moins, ouais, donc là le sport, là tu as beaucoup moins de temps.
C'est horrible. J'ai vraiment mis le sport de côté depuis des années, et ça c'est frustrant. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Je suis un monomaniaque, donc je fais que ça pour aller au bout du rêve.
C'était intéressant de savoir, parce que du coup je vais te demander si tu continues le roller, donc là c'est complètement mis de côté.
Peut-être un jour je reprendrai si je suis pas trop vieux, mais je dois aller au bout d'abord de ce rêve. Je fais les choses à 100% pour tourner bien la page, et après j'attaque un autre projet.
Et justement, donc tu avais parlé du projet notamment du film que tu peut-être transformes en roman plus tard, qui se deviendra de nouveau un film. Et justement, t'as quoi comme grand projet en tête encore ? Là, t'es vraiment focus sur la boîte.
Là, je suis focus pour la boîte et je suis encore dessus pendant quelques années. Les autres projets, ça sera faire ce film, ça je le ferai. Ça sera faire une école pour les enfants, pour donner une philosophie de liberté, ça je la ferai.
Suivre les passions et de
faire plutôt, et voir la vie sans barrière, etc. Et le troisième, c'est essayer d'aller dans l'espace, ça j'aimerais bien. Voilà, c'est les trois projets futurs que j'aimerais faire.
C'est des beaux projets en tout cas. Et si tu avais pour finir un conseil, justement, tu en as déjà donné pas mal, mais un conseil pour les jeunes, justement, ou pas pour
les
jeunes?
Non, mais c'est finalement un peu des proverbes que, comme celui par exemple de Mandela, c'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est globalement ce que. C'est-à-dire que je me pose jamais les problèmes sur les échecs. On a tous des échecs et j'en ai eu et j'en aurai encore beaucoup, etc. Mais je me casse pas la tête avec ça. J'avance, j'apprends. Et quand il y a des échecs, eh ben, j'ai pas le choix, je rebondis. Et quoi qu'il arrive, à force de travail, la vie est en dents de scie et elle le sera toujours. Il y a des trucs positifs et négatifs. Mais si on n'abandonne pas, celui qui n'abandonne pas ne peut pas perdre. Voilà, il y a que celui qui abandonne. Et je dis, comme je dis toujours, le jour où j'aurai perdu, c'est que j'aurai plus de souffle, je vivrai plus, quoi. Tant que je n'ai pas abandonné, le projet du film existera toujours, peut-être dans mon imaginaire, et j'aurai toujours l'espoir de le créer et d'autres projets, etc. Et donc, voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est que la vie, tant qu'on bataille, elle est toujours en dents de scie et elle va vers le haut.
Bah merci beaucoup, c'est cool. À très bientôt.
Merci. Salut, merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver toutes les notes de l'émission sur le site jccurdali.org. Il y aura les livres mentionnés, les ressources, etc. Donc Curdali, c'est K-U-R-D-A-L-I. Profitez-en pour vous inscrire pour ne pas louper les prochains épisodes. Et pour m'aider, vous pouvez faire deux choses. Partagez à vos amis l'épisode ou le podcast ou mon site, et mettez 5 étoiles sur iTunes. C'est ce qui permet d'avoir le plus de visibilité pour les podcasts. C'est comme ça qu'on gagne en visibilité. Donc c'est important. Je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Conversation avec JCK. Allez, à plus.